Bienvenue dans Cast, une série de rencontres audio en toute intimité avec les personnalités qui font la mode d'aujourd'hui. Avec Nicolas, si on a décidé de lancer ce format, c'est pour vous dévoiler les dessous d'une industrie bien souvent idéalisée et vous entraîner avec nous dans les coulisses de la mode. Cast, c'est un peu comme une place en first row qu'on vous offre pour découvrir tous les visages et tendances de l'industrie. À travers le parcours de nos invités, des dirigeants, des mannequins, des designers et des talents en tout genre, nous aborderons sans tabou, et j'insiste bien sur le sans tabou, toutes les thématiques qui touchent l'univers de la mode.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
La Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
It's fashion art.
It is. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Okay, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know ?
That's all.
Salut Youssouf, merci de passer un petit peu de temps avec nous.
Salut Sonia, bah avec plaisir vraiment,
merci,
je suis content d'être là.
Merci, comme à notre habitude, on commence par une question assez globale sur ton parcours, si tu veux un petit peu te présenter, nous dire où t'as grandi, quel parcours t'as eu, aussi bien scolaire que professionnel, et en gros toute ton aventure jusqu'à aujourd'hui.
Ok, je commence, le début c'est quand ?
Le début, c'est allez, la naissance. T'es
ok,
né
d'accord. je suis né à Villepinte dans le 93,
okay.
Dans l'hôpital intercommunautal Robert Ballanger.
Du on coup, est c'est, précis là.
C'est très précis parce que c'est entre Sevran, Aulnay et Villepinte. Donc okay. On se partage un hôpital pour trois villes.
Ah ouais.
Et donc je suis né là-bas et puis les gens qui sont nés dans cet hôpital ont la réputation d'être un peu chelou, donc voilà,
bon.
C'est pour ça que je précise. Mais moi, j'ai l'impression d'être normal, normalement.
Ils mettent un truc dans la péridurale des darons,
ouais,
ou c'est
comment ? Je sais pas trop ce qui se passe là-bas. Je sais qu'il y a des rumeurs qui disaient qu'il y a certaines personnes qui sont entrées dans l'hôpital pour se faire opérer. Enfin, je sais pas, c'était des légendes urbaines un peu, où t'as des mecs qui sont allés se faire opérer du genou gauche,
ouais.
Et ils leur ont opéré le genou droit, des trucs comme
mais
ça, il se passe plein de trucs bizarres.
Ah ouais, les gros mythes des médecins bourrés, quoi.
Exactement. Donc, je suis né là-bas en 89, donc... en mai 89, et j'ai grandi là-bas, donc j'ai passé toute mon enfance et j'y vis encore actuellement.
Ok.
Carrément.
Et resté au berceau.
Toujours, ouais. Je trouve que c'est bien. Enfin, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, moi, je m'y sens bien.
Mmh.
Et après, on aura le temps de revenir dessus. Mais je trouve qu'il y a un truc aussi qui permet aussi de rester connecté.
Grave.
Et je crois que c'est un peu important, en tout cas pour moi, pour l'instant. Je sais pas après pour comment tout va évoluer, mais pour l'instant, c'est encore important pour moi.
Ok.
Donc, c'est bien que je sois encore à Villepinte. Et une scolarité normale, on va dire.
T'as hésité à dire
ouais,
normale.
Non, parce qu'en fait, ma scolarité, elle était normale jusqu'à ce que j'en parle avec d'autres personnes quand je suis venu sur Paris.
Ah ouais.
Et que tu expliques un peu comment ça se passait l'école, tes profs, avec tes camarades de classe, tout ça. Et après, tu t'aperçois qu'en fait,
ce qui te paraissait normal,
c'était
pas
du tout normal. Ouais, ouais, des trucs un peu qui étaient hors cadre scolaire en réalité et qui se passaient à l'école. Et où beaucoup de personnes en fait te font comprendre. Enfin, quand tu t'échanges avec d'autres personnes qui ont grandi dans d'autres villes, qui ont suivi d'autres cursus scolaires entre guillemets ou d'autres types, qui ont été dans d'autres types d'écoles, en fait, tu comprends que comment ça fonctionnait. Nous, c'était pas normal. Comment les profs se comportaient.
T'étais en ZEP.
Ouais, exactement. Ouais. En ZEP, et en fait, tu t'aperçois déjà au niveau du programme scolaire.
Complètement.
Ça a rien à voir. Donc, en plus, nous, on passait la plupart du temps à avoir des profs qui nous disent, qui arrêtaient pas de nous dire, ouais, de toute façon, moi, de toute façon, à la fin de la journée, je suis payé comme d'habitude. Donc, qu'on avance ou pas sur le programme, moi, ça me dérange pas. Et c'était tout le temps ça qui était répété. Et à la fin, on terminait jamais le programme. Et après, quand tu arrives dans une école, parce qu'après, moi, j'ai fait une école de commerce.
Okay.
Pour en parler. Mais quand tu arrives là-bas et que tu discutes avec d'autres personnes, en fait, même tu t'aperçois que pour beaucoup, en fait, ils avaient même de l'avance dans le programme scolaire. Et aussi, ils faisaient beaucoup de sorties, ils allaient voir beaucoup de musées, etc. Alors que nous, c'était pas vraiment le cas.
Mm.
Nous, les sorties, c'était Parc Astérix et Euro Disney à la
fin
de l'année. C'était juste ça, quoi. Ou après, on avait quelques trucs en plus, mais bon, c'était pas énorme. Et donc, voilà, j'ai grandi dans ça, entre guillemets.
Mm.
Après, j'ai fait un collège, toujours dans Villepinte, où je voulais faire un CAP pâtisserie.
Ah ouais?
Ouais, à partir de la quatrième, j'avais un peu fait mon choix et c'était un CAP pâtisserie que je voulais faire.
C'est toi qui avais envie de ça ou alors
ouais,
on t'a un petit peu orienté?
Non, j'aimais bien ça. Avec mon frère, on faisait, je m'en souviens, on allait à la bibliothèque et on prenait des livres de recettes et on refaisait des gâteaux à la maison. On
n'avait
pas tous les ingrédients, mais on faisait des gâteaux. Et je m'en souviens même une fois, on avait trouvé une recette. C'était je sais pas, un gâteau avec des pommes, et je crois qu'il y avait du rhum dans le gâteau, ou des beignets, des beignets pommes avec du rhum. Comme il n'y avait pas de rhum, j'ai mis du vinaigre. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a chez moi qui a...
Cuisine expérimentale.
En plus, surtout, comme je me suis dit, l'alcool, avec comme il y a des degrés, tout ça, j'ai cherché dans les armoires, qu'est-ce qu'il y avait...
De l'alcool.
C'était le vinaigre. Donc, j'avais mis ça, c'était catastrophique, c'était pas bon du tout. Mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire.
Ouais.
Et je voulais m'orienter vers ça. Puis j'ai un prof qui m'a dit que c'était du gâchis si je faisais un CAP pâtisserie et que je devais plutôt me concentrer sur une générale.
Ok. Donc, c'est bien ça. T'as eu dans ta scolarité un petit peu des mentors, parce que tu disais que les profs, ils étaient un petit peu. Comment dire ?
Oui, dépassés. Je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient dépassés par les événements.
Ouais.
Ils venaient de province.
Ouais.
Beaucoup venaient aussi avec beaucoup de bonne volonté, qu'ils allaient arriver et changer les choses concrètement. Parce que je pense que quand on s'engage en tant que professeur, c'est une vocation. Il y a une vraie responsabilité. Et je pense qu'ils sont profondément convaincus qu'ils peuvent changer les choses de l'intérieur et faire en sorte de vraiment avoir un impact sur la vie de ces élèves jusqu'à leur âge adulte. Mm. Et même ceux qui choisissent d'aller en ZEP, beaucoup. Mais après, ce qu'ils oublient, c'est qu'en face, ils ont des enfants et qu'il y a des réalités qui sont leur quotidien.
Bien sûr.
Et avec cette réalité-là qui est leur quotidien, en fait, on a beau leur dire ce qu'on veut, mais jamais de la vie, en fait, un élève va... Enfin, rarement, il va prendre, pour exemple, ou écouter un prof parce qu'il va avoir l'impression que ce prof n'a pas la légitimité pour lui parler, lui dire ce qu'il a à faire dans sa vie, parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'il vit dans son quotidien. Et c'est là où je trouve que c'est très complexe. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance à chaque fois, en tout cas. Après, je sais pas, et je crois que très tôt, entre guillemets, j'ai été un peu mature.
Ouais.
Et ce qui fait que j'arrivais à avoir des discussions avec mes professeurs.
Mmh.
Et au collège, je m'en souviens que je parlais très bien, notamment avec un prof d'anglais.
Ouais.
Et c'est ce prof-là qui m'a poussé. Il m'a dit d'aller vers une générale. Et donc, j'ai décidé d'aller vers une générale. J'ai fait SES.
Mmh.
Et après, pareil, quand je devais choisir pour ma première, je voulais faire STG parce que pour moi, c'était... Enfin, je me disais qu'il y avait plus de chances d'avoir mon bac en faisant ça.
T'étais bon élève quand même ?
En primaire, très bon élève. Collège aussi. Jusqu'à quatrième où je crois que j'avais un... Je sais pas, j'avais joué, ça me parlait plus. Ça me parlait plus parce que j'avais toujours doit faire ses preuves. Enfin, on me disait toujours que j'étais en dessous de mes capacités. En gros, que je pouvais faire mieux, mais que je choisissais mes matières. Qu'est-ce qu'on me disait ? Ouais, je choisis mes matières. Ou alors... comme si j'étais pas à fond.
Tu te reposes un peu sur tes acquis.
Voilà, exactement. Ouais. Et moi, j'arrivais pas à comprendre cette phrase.
Okay.
Et comme je la comprenais pas, il y a eu un conseil de classe où, pour me mettre la pression, il y a mon prof principal qui avait suggéré de me faire redoubler pour que je réalise et que je me mette à mon maximum.
Ah ouais.
Et moi, ça m'a bloqué. Parce que pour moi, c'était plus.
Ça a eu l'effet inverse. Ouais,
ouais, ça a fait l'effet inverse.
C'était une punition, genre.
C'est ça. Et puis après, et du coup, et surtout, je comprenais pas. Pour moi, l'objectif, c'était d'avoir mes diplômes.
Mm.
Enfin, d'avoir le bac, le brevet, avoir le bac, etc. Et pour moi, tout ce qui était entre, ça servait pas à grand chose. Entre guillemets, je pouvais, même si j'avais pas. Si j'avais la moyenne, ça me suffisait.
Ouais.
Et ensuite, l'important, c'était que lorsqu'il y avait le diplôme, il fallait l'avoir et puis c'était bon.
Ouais,
et donc, comme j'avais cette mentalité-là, j'arrivais pas à comprendre ça. Et du coup, ça a fait l'effet inverse où je me suis dit, en fait, moi, je m'en fous de tout ça. L'important, c'est qu'à la fin, de toute façon, je sais que j'aurai mes diplômes et je me concentre sur ça. Donc après, j'ai commencé un peu à moins bien me concentrer, entre guillemets, sur les cours.
Mm-hmm.
Parce que, je sais pas, ouais, parce que je pense que le système en lui-même... Ça me parlait plus trop. Enfin, même ceux qui avaient les meilleures notes. Après, je pense que j'étais pas capable de mettre des mots dessus. Mais ceux qui avaient les meilleures notes, c'est des gens qui apprenaient par cœur.
Ouais.
Et moi, j'aimais pas apprendre par cœur. J'avais besoin de comprendre tout ce que. C'est pour ça que j'aimais bien discuter avec les profs, poser les questions et discuter même à la fin des cours. Parce que j'avais besoin de comprendre exactement, lorsqu'on faisait un cours, de quoi on parlait.
Mmh.
Et j'aimais pas l'idée d'apprendre par cœur.
Ouais.
Et souvent, je révisais pas. Parce qu'il suffisait que je suive bien le cours, que je comprenne, pour qu'ensuite, lorsqu'il y ait le devant, en fait, je puisse me débrouiller.
Ça te revient.
Exactement, parce que je savais de quoi j'allais parler, etc. Donc, je me débrouillais comme ça. Mais le problème, c'est qu'on avait un modèle, entre guillemets, scolaire, où c'était, il fallait faire du par cœur et puis recracher le cours pour avoir les meilleures notes. Et moi, ça ne me parlait pas. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai commencé un peu à décrocher.
Mais je pense qu'il y a, de manière générale, une grosse réforme de l'éducation à faire. Moi, je suis super admirative, moi, des profs. Je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde parce que, comme tu dis, il y a cette espèce de vocation et cette mission d'éduquer la jeunesse, etc., de prendre un petit peu parfois même le relais du cadre familial.
Exactement.
Et tout. Je trouve ça hyper beau. Mm. Mais malheureusement, souvent, tu te fais un peu dépasser par le système et on a tendance à valoriser en France des compétences qui sont pas forcément toujours ni très justes, ni très probantes dans la vie professionnelle des gens après, tu vois.
Exactement, ça c'est clair. Et toujours après, c'est la même phrase. Hein. à quel moment le théorème de Pythagore ça va me servir dans ma vie, tu vois. Ou à chaque fois on répétait ça. Après c'est sûr que c'était, on était jeunes, donc c'était un peu, on en rigolait, mais concrètement, et bah en réalité ça voulait dire beaucoup de choses pour certains, parce que t'as beaucoup de gens qui étaient même dans le cadre familial, où je sais que pour nous, en ayant des parents qui sont issus de l'immigration, ben les seuls repères entre guillemets qu'ils ont pour savoir si leur fils est compétent, etc., ben c'est les bulletins scolaires,
c'est les notes.
Les notes. Et en fait, il suffit que ton fils ait pas, ou ta fille n'ait pas des bonnes notes à l'école pour que t'aies l'impression que c'est un enfant qui est un peu bête.
Ouais, bien sûr.
Et c'est relou en vrai, parce que du coup, ça fait que toute la relation que l'enfant va avoir avec les parents, ça va être lié à ses notes scolaires et ses résultats scolaires. Et je pense que l'école oublie aussi des répercussions que ça peut avoir dans une famille. Parce que du coup, ça peut vachement exclure un enfant dans le cadre familial. Il suffit que les autres, ses frères et sœurs aient des meilleures notes, lui des bonnes notes, et il est considéré comme un enfant
en difficulté.
Et du coup, qu'ils se sentent mal à l'aise, qu'ils se mettent à l'écart. Et ensuite, après, il y a tout ce truc où finalement, il se dit, je me sens moins bien dans mon cercle familial parce qu'on me prend pour un bête. Mais quand t'es avec tes potes, t'es le plus fort, entre guillemets, pour te bagarrer, pour tout ça. Et comme t'es le plus fort, du coup, t'as cette acceptation de ton cercle amical qui fait que tu préfères passer du temps avec eux plutôt qu'avec ta famille. Ouais. Et là, petit à petit, tu rentres dans un truc où tu préfères rester dehors que chez toi. Et après, tu traînes.
Tu décroches.
Exactement, ouais. Donc c'est hyper délicat. En tout cas, il y a toutes ces questions-là. Après, moi, je me pose beaucoup de questions comme ça maintenant parce que je pense que j'ai la capacité d'avoir du recul, et puis je m'intéresse à de plus en plus de choses.
Ouais.
Et je me dis, ouais, il y a un gros travail à faire. Et comme tu l'as dit, il y a des profs qui sont géniaux. Et moi, j'ai eu la chance d'en croiser, notamment quand j'étais au lycée, pareil, où je voulais faire STG. J'ai mon prof d'histoire et ma prof d'histoire et mon prof de français qui m'ont convoqué pour me dire, il faut que tu fasses un bac ES parce que tu as les capacités pour faire ES. Et là, moi, je me suis dit, je vais accepter, je le fais, voilà. Et donc, j'ai fait un bac ES et que j'ai obtenu. Et après mon bac ES, comme j'avais pas des bonnes notes tout le temps, j'avais des mauvais dossiers.
Ouais. Ça joue sur le choix de l'école après.
Voilà, exactement. Donc je me suis retrouvé à la fac à Villetaneuse.
Ok.
En éco-gestion.
Ouais.
J'ai fait un an là-bas. C'était catastrophique.
Parce que c'est le système fac qui correspondait pas.
Ouais, c'était mort. Donc première journée, j'arrive, je rentre dans l'amphi. Le prof, il parle, je comprends rien du tout. Donc, je me déplace dans l'amphi en me disant, je vais mieux comprendre. Donc, je me mets plus près et je comprends rien. Je crois que ça parlait de macroéconomie et il parlait de Robinson et Crusoe.
Ouais.
Et je comprenais
pas. T'avais pas la ref?
Non, je comprenais rien. Je me dis, pourquoi il parle de Robinson Crusoe en macroéconomie? Et en fait, il parlait d'un système de... Je crois qu'on a fait micro et macro, et pour nous montrer, il parlait de un système économique, je sais, même moi, jusqu'à présent, je ne sais même pas l'expliquer. Et en exemple, il parlait de l'exemple de Robinson et Crusoe. Et moi, je ne comprenais pas. Et je me suis levé, je suis parti. Pendant 2 mois, je ne suis plus revenu. Je me suis dit, en fait, ce n'est pas pour moi, ce truc-là. Donc, je n'étais pas revenu pendant 2 mois. Et après, j'ai quand même décidé de revenir parce que je me suis dit, il faut que je m'accroche. Et en attendant de trouver quelque chose pour l'année suivante. Et là, je rencontre des potes d'un peu partout. Donc, tu avais des potes de Blanc-Ménil, de Creil, de Sevran, etc. Et après, on est parti juste pour rigoler. On est allé à la fac pour rigoler.
Pour voir les potes, quoi.
Ouais, pour voir les potes. On se mettait en haut de l'amphi. On se lançait des défis. Enfin, c'était que ça. Et après, à un moment, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça.
Ouais.
Donc, j'ai décidé de me reprendre en main. Et là, j'ai travaillé en préparateur de commandes chez Chronopost pendant 6 mois.
Okay.
En attendant. Et puis, je postulais pour chercher d'autres écoles.
Okay.
Et je me suis retrouvé à être accepté au centre de formation de la profession bancaire. C'est un CFA qui a une antenne rue Stephenson dans le 18e.
Okay.
Genre, c'est la rue perpendiculaire à ma boutique à présent.
Bah ouais.
Donc, un truc de fou. Et donc, je me retrouve là-bas et je fais un BTS banque en alternance. Donc, c'est un BTS un peu force de vente, entre guillemets, mais spécialisé dans les métiers de la banque.
D'accord.
Et où je fais ça en alternance au Crédit Lyonnais.
Qu'est-ce qui t'a attiré du coup? Qu'est-ce qui t'a
dans la banque
faire
ouais. C'était parce que j'étais sûr, entre guillemets, de trouver du taf.
Ouais.
Et puis à côté, je sais que pour mes parents, c'était plus rassurant.
T'avais une petite pression quand même financière, besoin de trouver un taf.
Ça directement, c'est pour ça que j'ai fait l'alternance aussi. Et c'est pour ça que j'ai taffé, parce que en fait, pour me payer tous mes trucs du quotidien, entre guillemets. Et aussi, comment aussi participer aux frais de la famille.
Ah,
donc, il y avait tout ça,
de...
exactement. Et puis aussi, moi, c'est là où, quand je fais la fac, ou que je commence à me renseigner. Donc, non, même pas quand je fais mon BTS, c'est là que je découvre qu'il y a des écoles de commerce qui existent.
Mm.
Parce qu'avant ça, je savais même pas que ça existait. Tout ce qui était prépa, école de commerce, tout ça, je connaissais pas du tout. Et en fait, j'ai découvert ça à ce moment-là. Et là, bon, après, je vois aussi les prix, combien ça coûte. Donc, je vois toutes ces choses-là. Et je me dis, oui, ok, bon, bah, c'est sûr que c'est pas fait pour moi, entre guillemets, parce que financièrement, je me vois mal aller demander un prêt. Parce que aussi, bah, pareil, psychologiquement, je me dis que si je demande un prêt.
C'est pas dans la logique des choses.
Exactement.
Quoi.
Pour aller à l'école, c'est compliqué. Donc, je cherche de l'alternance, je fais de l'alternance. Et après, ben, une fois que je fais mon BTS banque, donc là, je travaille à la banque pendant 2 ans. Au début, je suis en agence à Sevran-Bedott.
Okay.
Donc, vraiment au centre commercial, il y a une agence Crédit Lyonnais, donc j'étais là-bas.
Ouais, donc tu restes vraiment encore
exactement,
une fois dans le
secteur, ouais, toujours. Et après, je vais en, comment ça s'appelle, les centres d'appel téléphoniques des banques.
Ouais.
Donc, où je suis conseiller en ligne. Et là, c'était à Saint-Denis, à Pléiel.
Ouais.
Donc, je fais ça pendant 1 an et demi.
C'est
à
un
peu
vrai
près.
Univers, hein.
Ouais, laisse tomber. Mais ça a été une formation de ouf parce que ça m'a permis d'apprendre déjà la patience.
Mm.
Bon, j'étais un peu patient déjà, mais encore plus. Et surtout de, comment dire ça? De se mettre au service du client.
Mm.
Et de comprendre aussi que lorsque le client appelle et qu'il est énervé, en fait, il n'est pas énervé
contre
moi, mais contre, entre guillemets,
l'institution
de la banque. Et en fait, nous, on est là pour trouver des solutions.
Mm.
Et ça me plaisait bien de trouver des solutions pour les clients. Tu vois, donc, je me prenais vraiment, vraiment la tête à chaque fois pour essayer de trouver, réparer, en fait, faire en sorte qu'il n'ait plus de problème lorsqu'il raccroche. Et ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire.
Ouais.
Et l'autre truc aussi, c'est que ça m'a aussi beaucoup aidé pour parler.
Grave.
Parce que en vrai, j'étais beaucoup complexé sur mon français, en vérité.
Mmh.
Parce que j'étais donc à Villepinte, avec l'environnement dans lequel j'ai grandi.
Les codes sont pas les mêmes.
Les codes sont pas du tout les mêmes. Je m'en souviens des premiers entretiens, puisque j'ai passé, moi, pour faire mon BTS banque. Bah, j'avoue, j'ai fait des trucs de ouf. Genre, premier entretien, c'était Société Générale.
Mmh.
Et quand je vais à l'entretien, ils faisaient d'autres alternances, notamment, je crois que c'était trucs de gestion, comptabilité-gestion.
Ouais.
Voilà, compta-gestion. Mmh. Et en fait, ils m'ont mis dans le mauvais truc d'entretien. Moi, c'était BTS Bank, mais ils m'ont mis dans ça. Et tellement j'avais peur de ne pas trouver un poste, je suis resté comme si j'avais postulé pour ça. Donc moi, je commence à faire mes tests, je suis pris pour les tests. Après, il y avait les entretiens oraux. Et quand il y a les entretiens oraux, ils me demandaient un peu ben, pourquoi je faisais ce BTS, pourquoi ci et ça. Et moi, je ne connaissais pas du tout c'est quoi ce BTS. Et donc, comme j'avais préparé un peu pour le BTS banque, je disais, ouais, moi, j'aime bien le relationnel avec les clients, etc.
Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ?
Et elle me dit, mais vous savez que dans ce métier-là, vous n'avez pas de lien direct avec la clientèle. Et là, je lui dis, non, mais les collaborateurs, les salariés, c'est pareil.
T'as fait un salto arrière, genre.
Elle m'a barré en rouge direct. Donc, j'ai
mais,
pas été
non,
pris,
mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que, ben, comme tu disais tout à l'heure, on nous apprend à l'école Pythagore et compagnie, mais on nous donne pas forcément les clés pour trouver un emploi, pour savoir se débrouiller dans la vraie vie. En
exactement.
Fait. On ne donne pas les codes et c'est hyper important. Quoi.
Et ça, c'est... je regardais la dernière fois, c'est Amartya Sen, je crois, un sociologue indien, qui parle de ça, des capacités. Il dit, en fait, c'est ça qu'il faut réussir à développer chez les
c'est
gens.
C'est clair.
Pas parce qu'en fait, si chacun est capable de développer ses propres, entre guillemets, ses compétences et ce dans quoi il est fort dans son domaine, forcément, il peut s'en sortir dans la vie. Et si tu lui donnes accès aussi à toutes tes informations, ensuite, après, à lui d'avoir son destin en main, entre guillemets. Mais là, aujourd'hui, en fait, finalement, ce qui est triste, c'est qu'en fait, tout le monde n'a pas son destin en main.
C'est clair.
C'est ça qui est compliqué.
C'est ça. Je pense que c'est ça qui creuse le plus les inégalités.
Exactement,
aujourd'hui,
100%.
C'est pas tant un problème de compétence, c'est un problème d'information. Tu
tout
vois.
À fait, 100%. Ouais.
Tes parents, ils savent pas forcément t'aider parce que, après, ça dépend de ton
bien sûr.
De ton cercle, etc. Mais quand t'as pas des parents qui ont forcément été éduqués, qui connaissent parfaitement le système éducatif français et tout, tu pars d'office avec un handicap parce que t'as pas l'information.
Exactement,
aujourd'hui, c'est ça qui est clé. Donc j'ai espoir de me dire qu'avec maintenant Internet, tout ce que tu peux faire comme recherche et tout, si t'as envie, t'arrives à trouver les infos. Mais encore une fois, tu pars pas avec les mêmes chances parce
bien
qu'il
sûr.
Faut que tu redoubles, toi, de travail, d'effort.
Je suis d'accord, ouais. 100%.
Ok, donc ça prend pas, la banque ça prend pas.
La banque ça prend pas. Pourquoi ? En fait, un truc tout bête, c'est que c'est les objectifs de vente qui me plaisaient pas.
Okay.
Donc il y avait des objectifs de vente et moi j'étais pas là pour ça. Moi c'était pas pour ça que j'avais signé, entre guillemets, j'étais plus un conseiller. Donc, je décide d'arrêter. Pourtant, j'avais vraiment une bonne relation avec mon responsable.
Mmh.
Et surtout, moi, ce qui a été le déclic, c'est qu'à un moment, on avait un objectif sur des cartes de crédit revolving.
Ouais.
C'est des, en gros, tu as une carte bleue où tu as un crédit de 4 000 euros dessus, on va dire 2 000 euros.
Mmh.
Et en fait, tu peux l'utiliser. et tu rembourses. Et à chaque fois que tu as remboursé, si tu as remboursé 500 euros de tes 2000 euros, ben, soit tu décides d'attendre que tu rembourses tout, mais sinon, si tu as déjà remboursé 500, tu peux les réutiliser à nouveau.
Ah ouais, mais tu as des intérêts de fou.
Ouais, exactement. Ouais. Et moi, ce qui m'a dérangé, c'est que quand il fallait vendre ces produits-là, ben, je savais exactement, entre guillemets, à quel profil de personne je pouvais le vendre. Mmh. Et ça ne me plaisait pas du tout parce que c'était des gens qui étaient déjà un peu en difficulté. Bah c'était ouais. leur ajouter des problèmes. Et donc, je n'ai pas du tout fait ces deux ventes ou quoi que ce soit. Donc, j'étais, en plus, nous, on avait des classements de, ah ouais. des vendeurs et tout en France, Île-de-France, etc. Et moi, j'étais dernier parce que je n'en ai pas vendu. Mmh. Et en fait, je me suis dit que ce n'est pas ce métier que j'ai envie de faire.
Tu as eu un cas de conscience.
Et ouais, exactement. Donc, j'ai préféré arrêter. Et là, donc, je décide d'arrêter. Et là, c'est à partir de ce moment-là où il y a les signes, entre guillemets, dans ma vie, où j'arrive, auxquels je me rattache.
Ouais.
Parce que quand je décide d'arrêter, donc je prends ma décision au mois d'août, et septembre, il faut que je trouve une autre école, parce que je ne voulais pas arrêter au BTS. Et là, comme j'avais entendu parler des écoles de commerce, je voulais en faire une, mais sans payer, donc je cherche en alternance. Et j'avais, donc en août, j'arrête, j'avais septembre, octobre pour trouver une entreprise et l'école pour faire l'alternance.
Ok, donc c'est un peu la course.
C'était la course, ouais. Donc je trouve une première école. C'est qui est d'ailleurs près du Canada Saint-Martin, c'est l'INSEC, mais ouais. c'était leur version alternance, ça s'appelait le CEFIR à l'époque. Je okay. crois maintenant c'est INSEC quelque chose.
Okay.
Donc d'ailleurs, qui sont pas très loin d'ici.
Ouais, ouais, on est à côté du canal.
Donc on décide, donc je suis pris là-bas. Et après, j'ai un mois pour trouver une entreprise, sinon, ben, j'ai pas sinon l'école me tèche. Quoi,
ouais, c'est conditionnel.
Exactement. Et là, ben, et là, c'est là où je me dis que du coup, en fait, le fait d'avoir pris cette décision d'arrêter à la banque pour des raisons éthiques, entre guillemets, ben, ça m'a facilité ensuite pour trouver mon école et ensuite après ben, pour mon alternance où en fait au début donc il y a l'école qui envoie des offres d'emploi et lorsqu'elle envoie les offres d'emploi en fait ben, tu dois postuler et puis après t'es appelé par l'entreprise et moi j'en reçois aucune de l'école et comme j'en reçois pas je me dis attends il y a un truc chelou donc je vais voir l'administration je leur dis ouais j'ai reçu aucune offre d'emploi est-ce que c'est normal et en fait ils s'étaient trompés et je recevais aucun email. Donc, ils ont réactivé le truc. Et là, je reçois premier listing d'offres d'emploi. Genre, je réponds direct à un entretien.
Super. Ouais. Tu te souviens, c'était pour qui?
C'était une startup qui s'appelait Paris Labs. Je crois qu'ils ont changé de nom entre-temps. Et ils faisaient des réseaux sociaux pour les grandes écoles, les entreprises.
Ouais.
Et pour n'importe quel... ouais, n'importe quel... Même une personne qui veut lancer son réseau social. Parce que c'était... On était en quelle année?
Ouais, c'était les débuts.
C'était
de,
au début, ouais,
social media.
Exactement. Donc, tout le monde avait envie de faire son réseau social.
Mm.
Et donc, je vais là-bas en entretien et en fait, je suis pris directement.
Ok.
Donc, je commence mon école, je fais mon alternance et là, je travaille donc en informatique et je prends cette décision. En fait, je fais, c'était un master en web marketing, enfin digital en gros.
Ouais.
Et parce que je commençais à voir qu'il y avait une tendance au niveau des métiers digitaux et je me suis dit, bon, ben, autant me spécialiser dedans.
Tu rajoutes une corde à ton arc.
Exactement. Donc, je vais là-bas, ça se passe super bien. Juste, je me sens pas trop à ma place en réalité parce que je suis pas un vrai geek. Donc, j'aime bien parce que je sais facilement m'adapter, entre guillemets. Mais à côté de ça, je m'aperçois que je suis pas vraiment, vraiment à ma place et que je suis pas passionné, en vrai. Je suis pas passionné et l'univers startup, tout ça, ben, en vrai, ça me... Comment dire ça? J'aime bien de loin, on va dire.
Okay.
Tu vois, c'est cool. Tu vois, je trouve qu'il y a tout un truc autour de la Startup Nation.
Ouais.
Mais une fois que je suis dedans, en fait, je suis moins
t'es
emballé. Tu vois, ouais, je suis pas à ma place.
Ouais.
Donc, je fais mes 2 ans. Ça se passe vraiment bien. Et entre-temps, bah, je commence à lancer un projet avec un pote. Et ça s'appelait Unnamed, où on voulait faire des vêtements à partir de vêtements recyclés. Là, on est en 2011-2012.
Ah ouais, visionnaire un peu quand même.
Dès le début, hein, franchement. Non, et on était à fond et on s'est dit, ouais, putain, ça peut être cool de pouvoir lancer une marque où on utilise des vêtements anciens avec un peu de matière nouvelle.
Mmh.
Et on voulait proposer en plus un système, c'est que lorsqu'une personne achetait un vêtement chez nous, il pouvait ramener ses anciens vêtements, lui faisait une réduc. Et aujourd'hui, je crois H&M fait ça aujourd'hui
de
en
ouf,
plus.
C'est ce
ça.
Que j'allais
exactement.
Dire.
Et donc, on fait ça, on fait un concours qui s'appelle JSVC. C'est l'université, c'est l'ESSEC et Berkeley qui organisent. C'est un concours pour les étudiants entrepreneurs.
Ouais.
Et donc, on postule à ce concours et on arrive sous finaliste.
Nice.
Donc, assez cool. En plus, après, il y a 4 étudiants de l'ESSEC qui doivent travailler sur notre business plan, tout ça.
C'est
donc,
trop
c'est
cool,
trop
ça.
Cool, tu vois.
Ouais.
Et moi, je me dis, bon, bah, vas-y, je vais me concentrer sur ça à fond. Donc, je vais chercher un job alimentaire. Et comme ça, je me concentre sur le développement de cette entreprise. Et en fait, ben, déjà, quand on fait les BP et tout, je m'aperçois qu'il faut beaucoup d'argent. Donc, et moi, je ne veux pas me prendre la tête avec un taf avec beaucoup de responsabilités. Donc, je postule au Crédit Coopératif en tant que au guichet, tu vois, dans la banque.
Ouais,
en
tu
disant,
retournes un petit peu à la
ouais,
banque.
Exactement. Et puis je me dis, je peux trouver du taf là-bas. Mmh. En plus, c'est simple, tu vois, je suis au guichet. Quand je rentre chez moi, j'ai pas repensé à ce
t'as
que...
T'as pas une charge mentale exactement. Qui t'empêche de te concentrer sur d'autres choses, ouais.
C'est ça. Et en fait, finalement, j'envoie mon CV et puis il atterrit en fait dans le bureau du délégué général de la région parisienne.
Ah ouais, direct.
Et en fait, il me recrute pour un poste de chargé de mission... parce qu'il y avait une bascule sur les outils informatiques, sur une nouvelle norme européenne pour les moyens de paiement et pour les paiements.
Okay.
Et en fait, ils me prennent pour ça. Et du coup, je dois gérer en fait tout l'accompagnement au changement mm-hmm. pour les clients associations, syndicats et quelques entreprises.
Donc, hyper intéressant, mais du coup...
Mais du coup, j'ai la charge mentale un peu, tu vois. Mais en fait, et du coup, je me dis, en fait, peut-être qu'il faut que je me mette plus dans ça. Parce mm-hmm. qu'en vrai, c'était un poste qui était assez cool.
Grave.
Et puis, à côté de ça, pour la marque, en fait, avec mon pote, finalement, on n'était plus trop dedans. Donc, je me suis dit, allez, je me concentre dessus. Mm-hmm. Et là, je passe 3 ans au Crédit Coopératif. Où, okay. Au début, je fais ce poste-là. Et ensuite, je rejoins... Je rejoins le service informatique au siège cette fois.
Okay.
Où là, pareil, je m'occupe du développement d'un outil informatique qui s'appelait, je crois que c'est Copanet. En gros, c'est le truc pour gérer tes comptes en ligne pour les entreprises.
Okay.
Et là, je m'occupe de ça, de tous les développements, les évolutions de l'outil et aussi la sécurité. Donc, okay. Je bosse sur tous ces trucs-là.
Pas trop geek, mais quand même, là, c'est un poste technique quand même.
Pareil, en gros, faut s'adapter. Hein.
Bah,
enfin,
ouais.
Je sais pas, en plus, ce qui était cool, c'est que ça mêlait. Ma précédente expérience à la banque avec mon expérience en digital. Donc
ouais.
J'avais trouvé le truc parfait,
en fait.
Exactement. Ouais. Et c'est là où du coup je te dis tous ces signes où je me dis en fait ça a beaucoup de sens, tu vois.
Grave.
Toutes ces décisions-là finalement, quand je prends du recul, je me dis en fait c'est un chemin que je suis en train de... En fait que je suis, c'est même pas moi qui le construis, en fait je suis en train de suivre un chemin qui m'emmène quelque part, tu vois. Et juste il faut que dans le présent à chaque fois je fasse bien les choses.
C'est une trop belle leçon ça. Mais je pense que tu le comprends avec le recul et les années.
Exactement, ouais.
Quand t'essayes de faire sens un petit peu de ton parcours, même si sur le papier ça a pas toujours l'air évident.
Exactement.
La preuve là où t'en es aujourd'hui, je pense
c'est
que
sûr.
C'est pas forcément ce qui était écrit.
Pas du tout, ouais.
Mais au fur et à mesure tu développes des compétences.
Bien sûr.
Et en fait on revient à ça, ce que tu disais tout à l'heure, tu développes des capacités, des skills
tout à fait.
Qui te servent plus tard, tu vois.
Exactement, et c'est ça. Et donc, quand je fais ça, en gros, j'arrive au Crédit Coopératif et je découvre tout le monde de l'économie sociale et solidaire.
Trop intéressant.
Et c'est hyper intéressant. Donc, t'es dans un truc où t'es imprégné de ça, tu vois, parce que tous les gens qui y travaillent, ils sont convaincus de ça, dans leur façon de consommer, dans ce qu'ils connaissent. Et à côté de ça, tous nos clients aussi, ils font partie de ce milieu. Mmh. Donc moi, je découvre pas mal de choses. Je découvre le mouvement des Colibris. Je travaille avec Médecins du Monde, avec la Croix-Rouge, avec même parfois des syndicats. Et c'est hyper intéressant, en fait, d'entendre. Parce que les syndicats, eux, de base, ils sont contre. Quoi qu'il arrive, tu vois.
C'est d'abord non.
Franchement, même quand je devais leur faire signer des contrats, avant de signer, c'était non. Ils devaient en parler et après c'était ok. Ou en rendez-vous, t'avais toujours. Ils venaient à 3, tu vois.
C'est des esprits contestataires.
Et c'était hyper intéressant en réalité.
Ouais.
De discuter, de comprendre aussi pourquoi ils pensent comme ça. Et aussi, évidemment, parce qu'on est dans un. Enfin, on vit dans un monde qui est celui-ci, enfin, avec ses défauts et ses qualités.
Mmh.
Et forcément, lorsque t'es salarié et que t'es employé, en fait, si tu connais pas bien la loi, entre guillemets, tout ce qui est, quels sont tes droits, en fait, très vite, les entreprises peuvent abuser.
Mm.
Et donc, eux, ils préfèrent être en mode militant non.
Et
comme
après,
ça, ça fait peur à l'entreprise.
Ouais.
Et ensuite, après, tu peux négocier et puis ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent. Tu vois.
En vrai, ça crée l'échange, en vrai, d'aborder les...
Exactement, c'est ça.
Ok.
Et donc, je fais ça pendant... Et après, quand je découvre tout ce qui est économie sociale et solidaire, moi, je me pose des questions sur moi. Qu'est-ce que concrètement j'ai envie de faire et qui a du sens
à ce moment-là?
J'ai quand je travaille à Crédit Coop, c'est de 2013 à 2015.
Ok.
Ouais. 2015, j'ai 25. Ouais, jusqu'à 25 ans.
Ok.
Ouais.
Quand
même assez jeune, donc jusqu'à 25 ans. Et là, je me dis, mais moi, concrètement, dans ma vie, comment je peux avoir un impact? Parce que je vois plein de. Aussi,
tu vois les gens faire les choses,
ouais,
ça
exactement.
Donne envie, non?
Et je vois plein de jeunes, des jeunes qui sortent de HEC, ESCP Europe, ESSEC, qui montent des projets et qui sont déterres dans ce qu'ils font.
Mmh.
Et au début, moi, quand j'avais fait mon premier projet, justement, avec mon pote, ce que j'avais fait, je crois que j'ai mimé un peu ce que ces gens faisaient.
Ouais.
En me disant, vas-y, j'ai envie de faire la même chose. Mais en vrai, dans ma vie, dans mon quotidien, Ben, l'impact, en vrai, je le comprenais pas vraiment. Tu vois, c'était pas un truc qui avait du... Même si on s'habille tous, on achète tous des vêtements, mais moi, entre guillemets, ce qui me révoltait et ce qui m'indignait dans mon quotidien, ben, c'était pas vraiment ça. C'était pas le fait d'acheter trop de vêtements, parce que c'était pas vrai autour de moi. C'est pas des... Ben, c'est sûr, on achète de la fast fashion, mais on n'achète pas de la fast fashion parce qu'on kiffe les sapes.
Ouais, c'est
pas une question de moyens, tu vois. Exactement. Donc, c'était pas vraiment ce truc-là qui me tenait, qui était un truc qui me portait. Mais ce qui me portait vraiment, c'était plus mon rapport avec, avec mes origines, avec le Sénégal. Et ça, parce que c'est mon quotidien. Quand je suis avec mes parents, quand je suis avec mes frères et sœurs, quand je retourne au Sénégal pendant mes vacances, quand je vais voir la famille, bah, quotidiennement, c'est ça en fait qui me prend, où je me dis, mais quel impact je peux avoir? Parce que quand mon père me raconte son histoire, quand je vois qu'on doit jusqu'à présent continuer à contribuer pour envoyer de l'argent au bled, pour construire des choses, pour l'alimentation, etc., je me dis, ok, il y a un truc entre guillemets qui va pas encore.
Ouais.
Enfin, même si nos parents, ils ont fait avec tous les moyens qu'ils pouvaient et ils l'ont très bien fait, mais je me dis qu'on est en 2021, mon père est venu dans les années 70, c'est pas normal qu'aujourd'hui encore, ils ont, parce que l'objectif pour lequel ils sont venus ici, c'est de se dire comment on va réussir à faire pour qu'on puisse développer aussi bah, le village, qu'on puisse faire du développement sur place et qu'ensuite les populations soient autonomes.
Ouais.
Et que bah, aujourd'hui, bah, combien d'années après ? 50 ans après ? Ouais, 50 ans après, que les enfants, on est à penser encore comme ça. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que nous, on peut faire concrètement pour participer à un développement économique et social durable et que ça ait du sens ? Et là, avec mon frère, donc lui, il a fait un master en gestion de projet, qualité, sécurité, environnement, tout ce qui est normes, les trucs comme ça. Et lui, il s'est dit, ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un impact concret, c'est de permettre à des entreprises locales d'être normées, d'avoir les certifications, pour qu'elles puissent accéder à des marchés étrangers et vendre à l'international, exporter. Et comme ça, ça crée un cercle vertueux pour qu'elles puissent se développer, embaucher, etc.
Ouais.
Et surtout, le problème qu'il y a sur le continent africain, c'est que ben, on exporte beaucoup de matières premières pas de produits transformés, et on importe beaucoup de produits transformés. Donc, comme on importe des produits transformés, on exporte des matières premières, ben, en termes d'équilibre, dans la balance commerciale, en fait, c'est pas bon.
Exactement.
Parce que c'est forcément, tu vends moins cher tes matières premières. Et c'était ça, comment on crée la valeur ajoutée sur place. Et là, mon frère, lui, il avait cette idée. Et moi, comme je suis plus un mec qui aime... les concepts, entre guillemets. Tu vois, moi, j'aime bien tout ce qui est marketing, marque, tout ça.
Ouais, vous avez des profils qui sont complémentaires.
Exactement. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça aussi, c'est un atout clé. C'est que, ben, comme on a pu le voir avec les États-Unis et l'Amérique, comme ce qu'ils ont fait après la Seconde Guerre mondiale, avec tout ce truc autour du rêve américain, avec le chewing-gum, avec tous ces trucs-là.
Yes.
Et je me suis dit, en fait, ben, clairement, c'est ce qui manque. Entre guillemets, c'est ce qu'il faut réussir à apporter pour qu'une entreprise, en fait, elle soit... séduisante entre guillemets à l'étranger.
Yes.
Parce qu'en fait, malheureusement et heureusement, je sais pas comment me positionner sur ça, c'est qu'on vit dans ce monde là où il y a l'image est hyper importante. Donc et là on a commencé à réfléchir et on a lancé les oiseaux migrateurs. Ça, on est en 2014 quand on lance ça. Et ce projet, donc c'est une asso au départ. On se dit, on veut participer au développement d'entreprises, donc petites et moyennes entreprises sur le continent africain, pour participer à un développement économique et social durable. Donc ça, c'est ça notre point de départ.
Ouais.
Et lorsqu'on lance ça, mon frère, lui, le premier projet qu'il voulait qu'on fasse, c'était du bisap.
Oui.
Donc on décide de lancer une marque de bisap qui s'appelle Bana Bana.
Ouais.
Donc ça veut dire pour moi, mais c'est aussi le nom qu'on donne aux vendeurs ambulants. Donc on dit les Bana Bana. Et donc on donne ce nom-là et on se dit, on va travailler en collaboration avec une entreprise locale qui fait la transformation de fruits locaux et toute la queue des fleurs d'hibiscus est faite par des coopératives dans les régions de Thiès, Kaolack, donc au Sénégal. Ensuite, c'est transformé, embouteillé au Sénégal et on va retravailler l'image de marque, faire le nécessaire pour qu'ils puissent exporter, vendre leurs produits à l'étranger. Donc, on veut se concentrer sur ça au départ. Et pour financer ce projet, moi je me dis, je crois qu'il y a un truc à faire autour de la mode. Parce que c'était déjà, on voulait intégrer un volet artisanat et mode.
Ouais.
On avait dit que c'était agroalimentaire, artisanat, mode. Et après, on voulait intégrer de la formation, plein de choses comme ça, mais qui, je pense, vont arriver au fur et à mesure. Et pour financer déjà la partie agroalimentaire avec le BISAP, moi, je me dis, il y a un truc qui est en train de se faire autour de la mode, parce que j'aimais bien ça. Je regardais un peu ce qui se passait. Et à l'époque, je crois que c'est 2013 ou un truc comme ça, il y a Burberry qui fait un défilé. Et dans le défilé, tu vois... les mannequins, je crois qu'il y a deux ou trois silhouettes où c'est des tissus en wax.
Ok.
Et je crois à l'époque, ça avait fait du bruit.
C'est le déclic pour toi, ça ?
Et ouais, carrément, parce que moi, en fait, je vois qu'il y a eu beaucoup de il y a eu un peu de polémique, je crois, sur ça. C'était encore très faible parce qu'on n'était pas à ce niveau comme aujourd'hui où là, il n'y avait pas... Comment ça s'appelle ? Dave Prada ?
Oui.
Ils n'étaient pas encore là. Et moi, je ne sais pas pourquoi ce que je me dis. Je me dis, ok, il faut rendre, entre guillemets, à ceux à qui ça appartient. Ce tissu, même s'il y a toute cette histoire autour du wax, et j'en suis conscient, tu vois, à 1000%, mais pour moi, le wax, c'est à Château Rouge.
Bah oui,
c'est,
faut rendre à César ce qu'il y a à César.
Exactement, qui vendent le tissu. Et du coup, je me dis, ok, on va faire un truc hyper logique, c'est qu'on veut avoir un impact sur le continent africain, mais pour avoir un impact sur le continent africain, même, et là, je dis ça, et je dis ça en étant conscient que nous, c'est juste une petite goutte, ce qu'on est en train de réaliser. Hein, mais voilà. Mais en tout cas, c'est comment on pense. Mmh. C'est que je me dis ça et je me dis, mais pour avoir un impact sur le continent africain, il faut qu'on ait un impact à Paris aussi. Mmh. Parce qu'on est parisiens aussi. Et aujourd'hui, nous, on est le trait d'union entre tout ça. Exactement. Donc, comment on fait ? Et pour moi, avoir un impact à Paris, c'est avoir un impact à Château Rouge. Ouais. Parce que c'est l'Afrique à Paris. Donc, c'est là-bas. Et en vrai, quand tu réfléchis, bah, les gens, ils n'ont pas une bonne image de Château Rouge aussi.
C'est clair.
Donc, je me dis, bah, en fait, si les gens n'ont pas une bonne image de Château Rouge, bah, je vois pas avoir une bonne image de l'Afrique. Déjà, commençons par essayer de faire un truc à Château Rouge. Et là, je me dis, ok, bon, bah, on va acheter nos tissus chez le commerçant de tissus à Château Rouge. On fait la production à Paris et on fait un truc, on écrit en gros, on écrit Château Rouge dessus. Et on essaie d'être hyper local, de faire un truc vraiment comme n'importe quelle marque peut le faire, un truc vraiment bien brandé. Et on fait 100 pièces, on les vend sur Internet.
Ouais.
Et avec les bénéfices, on finance la production de Bissap, tout ça. Et en fait, donc, je lance comme ça une photo au début. Je crois que je disais même pas que c'était moi qui faisais cette marque ou quoi que ce soit. Et en fait, très vite, la photo, elle est relayée. Donc, sur Instagram, il y a pas mal de gens qui la repartagent, notamment un blog qui s'appelait Nothing But The Wax,
okay,
qui partage le truc. Et là, après, ben, je suis contacté par... je crois qu'on a un article dans Les Inrocks. D'abord, ça prend comme ça. Et après, donc, au début, j'avais même pas de fournisseur. Je savais même pas où j'allais faire la production, avant même. Au tout début, j'avais pas d'atelier. Et même pour le sourcing, c'était une galère parce que, en fait, j'arrivais pas à trouver toujours les mêmes tissus. Mmh. Donc, j'ai acheté une quantité chez un, l'autre après chez l'autre, ainsi de suite, ouais, et tout.
Mais ça, c'est un truc que tu découvres, hein, quand tu connais pas la mode.
Tellement, tellement. Et je me dis, heureusement que je connaissais pas parce que je crois que j'aurais abandonné direct autrement.
Ouais.
Donc là, je découvre comme ça et je me débrouille. Donc, j'achète des tissus. Après, j'attends mon autre paye parce que du coup, je finance en plus avec la moitié de mes salaires, tu vois. Bah, donc, ouais, après, j'attends l'autre paye. Là, j'ai une pote à qui travaillait dans la mode. Mmh. Et je lui demande, ouais, cherche un atelier pour faire un truc et tout. Est-ce que t'as pas des contacts ? Et elle me dit, bon, j'ai confiance en toi. Tiens, contacte-lui de ma part. Et tu peux lui dire que tu viens de ma part et puis tu peux aller le voir. Donc, je vais le voir et c'est dans le sentier où je vais voir un atelier. C'était un propriétaire turc qui avait cet atelier.
Mmh.
Donc, je vais le voir avec mes croquis, avec mes tissus. Même pour la coupe, au début, je savais même pas comment faire ma coupe.
Mais toi,
donc,
comment tu t'es éduqué à tout ça ? Comment tu t'es formé ? Parce que tu viens pas du tout de cet univers-là.
Non, pas du tout. Moi, au début, même mes premiers croquis de mes pièces, le top wax avec Château Rouge, je l'ai fait. Hein, je m'en souviens, c'est sur un carnet de réunion quand j'étais à la banque.
Donc, entre deux calls,
tu vois, laisse tomber. Donc j'avais fait ce truc-là. Et après, en fait, c'est du bon sens. Et je pense que pour beaucoup de choses, c'est énormément de bon sens. Et le fait d'avoir travaillé en start-up avant, bah, ça m'a permis de voir aussi, parce que quand t'es dans cette mentalité un peu start-up,
t'as la débrouille.
Bah, tu te débrouilles. C'est toujours, débrouille, tu vois. Exactement. Et là, je me suis posé la question, parce que je sais que je savais pas faire de fiches techniques.
Mm-hmm.
Et je me suis dit, mais comment je peux faire un truc qui peut ressembler ? Et nous, bah, comme on est habitué à faire du sur-mesure, culturellement, bah, quand il y a. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais aller en fripe, parce que j'allais déjà en fripe, j'aimais bien ça.
Mmh.
Je vais aller essayer de trouver une pièce qui a un gabarit, entre guillemets, une forme qui ressemble à ce que j'ai envie de faire.
Mais je vais calquer le truc.
Et je vais aller, ouais, voilà. Et je vais ramener à mon couturier et je vais lui dire, est-ce que tu peux me refaire ça, mais tu modifies ça, et ainsi de suite.
Mmh.
Et en fait, c'est comme ça qu'on a sorti la première pièce.
Mais surtout qu'il y a des couturiers à Château qui blaguent pas du tout.
Mais laisse tomber, ils refont des trucs directs, tu vois. Et ils sont hyper rapides et tout, tu vois. Donc hyper efficace.
Bon, hyper rapide, je sais pas si je dirais ça.
Ça dépend. Genre, il a toujours une excuse. Mais c'est cool. Tu vois, donc on arrive comme ça, on arrive à faire la pièce. Je me rappelle, j'en fais 4. Je fais un shooting dans le quartier à Château Rouge. J'avais acheté un appareil photo Canon et tout. Donc j'essaye de m'exercer comme je peux. Tu vois, je fais le shooting. Et t'as une photo qui est prise devant le métro avec 4 filles et des potes, tu vois, qui font la photo.
Ouais.
Et cette photo, elle est hyper relayée, tu vois. Donc et là, c'est comme ça que ça commence à prendre. Il y a eu un post en plus dans Huffington Post US qui expliquait justement cette nouvelle génération d'enfants d'immigrés qui se réapproprient leur culture, ouais. Et ils utilisaient la photo pour reparler de ça. Et là, petit à petit, un truc est en train de se créer. Et là, moi, je voulais faire que 100 pièces. Mais au fond de moi, je me dis, il y a peut-être un truc plus gros qui est en train d'arriver.
Ouais.
Donc, on fait les 100 pièces. Je fais le lancement. Donc là, j'ai des articles dans les Inrock. Il y a le Gradia qui me demande en shopping. Et je me rappelle même ça, c'est un truc de ouf. Donc, on me demande un shopping.
Tu découvres
moi, je sais
un
même
univers.
Pas ce que c'est.
C'est quoi un shopping?
De ouf. Et on me dit, où est-ce que tu peux... En gros, vous pouvez faire livrer un top chez, dans leur bureau. C'était quoi, Condé Nast? Je sais même plus ouais. C'était où. Dans le 9-2. Et moi, je me dis, mais comment je vais envoyer ça?
Ouais,
parce que
ouais.
Je sais pas. Pour moi, il n'y a que la poste pour faire des envois. Donc, j'y vais à ma pause du midi. Genre, pause du midi, je vais là-bas. Il me demande si je suis un coursier. Je dis ouais. Et je pose comme ça mon carton. Tu vois, je le donne à ouais. L'accueil. Et puis, je repars, tu vois.
La
et en fait,
folie.
C'est tous ces petits
les
trucs-là.
Les anecdotes, elles sont
mais laisse tomber. Incroyable. Et là, et après, en fait, t'es petit à petit, aujourd'hui, avec le recul, bah, je réalise, tu vois, que bah, t'as des coursiers, en fait, t'appelles et le mec, il récupère
c'est
ton
ça.
Pli, il le ramène. Mais c'était cool, tu vois, de vivre tout ça. Et même ben, mes premiers envois, je les faisais à ma pause du midi quand j'allais au taf. J'avais un sac à dos North Face que je remplissais avec mes tops, mes commandes du jour.
Ouais.
Des cartons empilés à la main, donc dépliés. Et quand j'arrivais, donc dès que c'était midi, je pliais, je préparais mes colis. Et il y avait une poste qui était juste à côté de mon bureau. Et au midi, j'allais faire mes trucs à la poste et puis je revenais. Et j'ai fait ça jusqu'à ce qu'en septembre, on soit contacté pour être au Who's Next,
ouais.
Sur le salon Who's Next. Et quand on est contacté pour être sur le salon Who's Next, ben là, je me dis, bon, ça commence à être plus gros que ce que j'imaginais. Et surtout, en plus, on nous appelle pour faire une dégustation de Bissap
yes.
Et présenter en plus les vêtements. C'était un peu une collection en plus qu'on avait qu'une pièce, tu vois, mais qu'on a fait avec plein d'imprimés.
Ouais.
Et ça, c'était assez incroyable. C'était une pote qui s'appelle Fanny,
ouais.
qui travaillait dans une agence... tendance, c'était Martin Harper,
okay.
Et qui avait vu Maison Château Rouge sur Insta, enfin qui voyait, on se connaissait, tu vois, et elle me contacte pour me dire ouais, il y a peut-être un truc intéressant, et c'est comme ça en fait que ça c'est qu'on s'est retrouvé au Who's Next, genre
ouais.
Juste incroyable. Et quand on se retrouve là-bas, on récupère 200 cartes de visite.
C'est
et
ouf,
nous en plus on y va mais sans pression, parce qu'en fait nous on n'a rien à perdre, vraiment, tu vois,
ouais.
On arrive, on bricole un stand. De Bissap, d'ailleurs, qui nous suit jusqu'à présent.
Bah oui, nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Exactement. Et ça, on le bricole, mais genre, comme on achète des planches chez Castorama, on met la peinture, j'ai mon pote Dara, avec qui je faisais le projet Unnamed, qui dessine hyper bien, qui nous fait le logo sur la devanture du stand.
Ouais.
Et on va là-bas comme ça, et là, en fait, il y a tout le monde qui s'arrête autour de notre stand. Parce qu'il y a un truc
c'était
nouveau.
C'était trop cool,
en fait,
bah
ouais.
Oui.
Et c'est archi lourd, et en fait, on récupère 200 cartes de visite des acheteurs japonais, coréens, enfin de partout, canadiens. Et moi, c'est en plus, genre Beams, United Arrows, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, moi, ça me parle parce que je connais ces boutiques, parce que je vais dans plein de sites internet, plein de blogs où j'arrive à voir un peu ce qui se passe au niveau de la mode, au niveau international, mais sans me dire qu'un jour, j'allais être confronté à ces personnes, tu vois.
Ouais.
Et là, quand je reçois tout ça, ben, y a la directrice... mode de chez Merci,
ouais.
Qui laisse sa carte et qui dit ouais, on a un événement. Là, on est en septembre, qui me dit on travaille sur un événement pour février prochain. Et elle aimerait bien en discuter avec nous. Donc, elle me laisse sa carte. Tous les autres, j'en relance aucun parce que je me dis que ça va être une galère à gérer parce que je sais même pas faire un prix pour du wholesale
ouais.
Parce que je connais même pas. Je sais rien faire de tout ça.
Tu découvres tout vraiment.
Exactement.
Pas à pas.
Petit à petit, ouais. Et là, je me dis j'en garde une. Merci, parce que merci, j'allais là-bas et je kiffais.
Bah ouais, c'est une rêve.
De
hein.
Ouf. Et je me dis, ok, bon, bah là-bas, je pense qu'il faut se concentrer sur ça. Donc, je quitte mon taf.
Ok.
Parce que je me dis. Parce que non, pour deux choses. Parce que déjà, j'y crois profondément.
Bah, t'as
je me dis qu'il va se passer
signaux,
quelque
quoi.
Chose. Exactement. Et je me dis, si je veux le transformer, tout ce qui est en train de se passer,
faut que tu te
il
focus.
Faut que je sois focus. Exactement.
Vraiment.
Donc, je vais un mois chez Merci. Et moi, je vends du Bissap chez Merci, tu vois. Donc, les gens ne savent pas que c'est moi qui fais Maison Château Rouge. En face, il y a mes vêtements.
Ouais.
Et moi, je suis sur le stand de Bissap.
Mais c'est génial.
Et je vends
tu
le Bissap,
vois
tu vois. Et je vois tout. Et c'est assez ouf parce que ça tombe en février, c'est la Fashion Week. Et moi, je ne m'en rends pas compte parce que je ne connais pas tous ces calendriers.
Ah, mais attends, c'est une plaque tournante de ouf.
Et bah oui, exactement. Et tous les gens qui nous ont vus au Who's Next, en fait, ils nous revoient chez Merci. Et quand ils te voient chez Merci, ben, ça
assoit. Ça,
exactement.
Complètement.
Et puis moi, je vois les profils, tu vois, un peu acheteuses ou des Parisiens. Enfin, je vois tous les profils qui passent chez Merci et qui s'arrêtent et qui achètent. Et si je dis pas de bêtises, en un week-end, c'était une OP sur un mois, En un week-end, on avait vendu 50% du stock des vêtements.
Incroyable.
Et là, merci, il me rappelle en mode, est-ce que vous pouvez faire un réassort? Parce qu'en gros, ça, on est sûr que ça va très, très bien marcher, tu vois. Mm. Et là, moi, je commence à me gratter la tête en mode, comment je vais faire un réassort, tu vois. Parce que, en fait, c'était chaud. Et en plus, je devais gérer le stand de Bissap, tu vois. Ouais. Mais je trouve les solutions, tu vois. Donc
vous étiez que tous les deux encore on avec ton frère tous les deux, à cette
ouais.
époque.
Exactement, ouais. On était tous les deux et j'ai beaucoup de potes qui m'aidaient. Mais vraiment, tu vois, ça, pour le coup, sur ça, ça a été hyper fort parce que mes potes, ils m'ont grave soutenu.
Tu vois, ils
me filaient des coups de main quand j'avais besoin et tout. Et donc ça m'a beaucoup, ils m'ont beaucoup soutenu et aidé. Donc ça, c'était cool d'avoir ça, plus ma famille.
Trop bien.
Ouais, même s'ils ne comprenaient pas tout ce que je faisais au début, ils étaient quand même là.
C'est
parce
beau.
Qu'ils disaient, bon, on... Faut qu'on soit là pour lui en tout cas.
C'est trop beau.
Et là, donc, quand on est chez Merci, ça cartonne. Et après, une fois qu'on est chez Merci, moi, je commence à réfléchir à l'après. Et en fait, la chance que j'ai, c'est que pendant que je suis là-bas, je suis contacté par Le Bon Marché pour un truc en septembre. Et là, je me dis, OK, ben, j'ai bien vendu chez Merci. Là, j'ai tout à préparer du coup pour septembre prochain. Mmh. Et comme ça, je me focus sur ça. Je sais même pas faire de collection ou quoi que ce soit. Et entre-temps, il y a Beams. Non, attends. Oui, il y a Beams, les acheteuses de chez Beams qui me contactent en mode pour... parce qu'elles veulent voir ma collection.
Ouais.
Et moi, j'avais pas de boutique à l'époque ou quoi que ce soit. Mmh. Et j'ai un pote qui m'hébergeait, qui a une boutique une marque qui s'appelle Sawa, qui fait des chaussures made in Ethiopie. Ils sont en face de ma boutique actuelle.
Okay.
Et là, ils m'hébergent là-bas. Et là, on fait une installation un peu mytho en mode showroom dans son magasin.
Ouais.
Et en vrai, j'ai même pas de collection. Genre, c'est que les mêmes pièces, tu vois.
Que du
avec
bluff.
Que
du bluff.
Et elle débarque, genre, une team de 6 personnes, habillant comme des garçons, une traductrice et tout. Et moi, je suis là, j'essaie de vendre mon truc comme je peux.
Ouais.
Et après, elles m'ont dit, bon, bah, c'est intéressant, mais la collection est trop...
Trop restreinte.
Ouais, voilà. Donc, on attend de voir l'évolution de la marque pour me recontacter.
Mm.
Mais pour moi, c'était déjà hyper fort.
Bah, bien sûr.
Qu'elles soient venues jusqu'ici. Elles sont venues rue Mira. Tu vois,
ah ouais,
c'est
à l'époque,
fort,
c'est parce que c'est aujourd'hui en plus.
C'est grave cool, tu vois. Et moi, j'étais content de ça. Et après, ben, je me concentre sur Le Bon Marché. Mm. Et septembre, je me retrouve au Bon Marché. Et
tu réalises ou pas? Parce que là, t'en parles comme si c'était genre, ouais, ok.
Ben, je sais même, en vrai, je sais pas.
Comment t'accueillais tout ça à l'époque?
J'ai jamais vraiment. Après, c'est souvent, j'en parle même avec des potes. Je suis pas très émotif. Tu vois,
pas de ouf,
et ce qui fait que même quand ça arrive, je crois peut-être soit je vois trop les, comment dire ça, tout le taf qu'il va avoir
t'es
à faire entre guillemets,
ouais.
Ouais, exactement, donc je réfléchis déjà à tout ça, ce qui fait que j'arrive pas trop
à t'exciter sur
ouais,
le
m'exciter,
truc.
Ouais, sur le truc, je suis content parce que je réalise que c'est grand, mais je suis pas dans un état de...
T'es pas dans l'euphorie,
ouais,
t'es direct dans l'après, de
ouais,
okay, comment on fait concrètement pour réaliser le truc.
C'est ça, et du coup, j'arrive jamais à comprendre les gens qui disent « Ouais, il faut célébrer les victoires », tu vois.
Ouais.
À chaque fois, on me le dit,
c'est
tu vois.
C'est hyper important,
et
c'est
j'arrive
dur.
Et j'arrive pas, vraiment.
Toujours
c'est trop
pas.
Bizarre. Ouais, toujours pas. Toujours pas, je sais pas. Mais bon.
Bon, ça viendra.
Ouais, ça viendra, c'est clair. Mais c'est qu'on aussi, après, je pense que, à titre personnel, j'ai des ambitions, entre guillemets, j'ai des envies qui sont au-delà de la mode.
Ouais.
De base, tu vois. Mon projet de base, il est au-delà de la mode. Et ce qui fait que pour moi, ça, c'est juste, c'est des étapes, quoi. Et tant que j'ai pas réussi à faire comme j'imagine dans ma tête
t'es
et arriver à ça.
Ouais,
exactement, je crois que je suis insatisfait. C'est peut-être pour ça. Et c'est aussi peut-être culturel. Je pense qu'il y a de ça aussi. Je pense que c'est peut-être culturel. Et aussi, peut-être aussi, après, bon, je sais pas, c'est une théorie que je me fais tout seul. C'est que dans ma famille, moi, je suis au milieu.
Ouais.
Et comme je suis au milieu, ben même pour mes diplômes, tout ça, on m'a jamais fait comprendre que c'était bien.
On t'a pas félicité.
Ouais, parce qu'en gros, j'ai deux grandes sœurs et un grand frère. Mm. Ben ils ont eu le bac avant moi. Donc en vrai, avoir le bac, c'était normal de l'avoir.
Ouais.
Tu vois.
Il y a pas eu la célébration
exactement.
Autour de je suis le premier.
C'est ça.
Et
Alors que les plus petits, eux, il y a eu pour eux parce que comme c'est les plus petits, t'as le truc où tu te dis.
Ça ne se reproduira plus. C'est maintenant ou jamais.
C'est clair. Donc et moi, en fait, peut-être que j'ai toujours été comme ça dans ma vie, tu vois, où c'était normal.
Mm.
Et là, j'ai l'impression c'est fort, mais c'est normal, tu vois.
Ok.
On dirait tout.
Bah après, il y a beaucoup de travail derrière aussi, donc tu te dis,
ouais,
c'est
beaucoup.
Un peu le juste retour.
Exactement.
Même s'il y a toujours un petit facteur chance, il y a toujours une espèce de bonne étoile où tu te
ouais,
dis,
mais
ok.
Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que pendant, même jusqu'à présent, tu vois, par exemple, je suis pas conscient que je travaille beaucoup.
Ouais.
Ça, je le réalise pas. Je réalise pas, et quand il m'arrive un truc, parce qu'on m'a beaucoup dit que c'était, que j'ai beaucoup de chance, tu vois. Parce que les gens oublient que je travaille. Et même moi, du coup, ça, dans ma tête, j'ai l'impression de pas beaucoup... En fait, j'oublie que je travaille énormément.
Ouais.
Tu vois, sachant que, genre, je prends pas de vacances, je travaille. Genre, des fois, mes journées, ben, pour que je puisse faire tout ce que j'ai envie de faire, ben, je fais des nuits blanches, souvent. Tu vois, mais c'est répété, répétitif. Et quand un truc arrive, ben, c'est un peu le truc du syndrome de l'imposteur.
C'est ce que j'allais dire. Ouais, est-ce qu'il y a ce truc de... tu te sens comme pas comme comme une fraude, mais en tout cas t'as ce truc de se dire ça peut s'arrêter du jour au lendemain.
Exactement, de ouf, vraiment, tu vois, ou du coup j'arrive même plus à voir, en fait j'arrive même plus à voir que c'est mérité à cause de mon taf, parce que je me dis, est-ce que je suis à ma place, est-ce que pour tout, en vrai, à chaque fois je découvre, parce que bah, comme t'as pu le voir, tu vois, pour le Who's Next, pour Merci, pour le Bon Marché, bah à chaque fois, en fait, par exemple Bon Marché, je m'en rappelle au rendez-vous comment ça s'était passé, c'était une expo, c'était un truc sur Paris. Et il y avait une présentation. En fait, ils ont fait venir plein de marques pour présenter. Ouais. Moi, je suis venu une heure en retard.
Ah, bravo.
Et je me suis dit, ils vont se dire, mais lui, ça sert à rien, tu vois. C'est pas un mec fiable ou quoi que ce soit.
Mm-hmm.
Et j'arrive et en fait, ben, genre, ça s'est trop bien passé. Ça s'est hyper bien passé. Et j'arrive. Et pareil, tu vois, c'est un truc où tu dis, mais en étant arrivé une heure en retard, c'est pas logique et c'est pas normal qu'on me félicite et que ça se passe très bien, tu vois.
Ouais.
Parce que comme si c'était volé. Alors que non, en fait, c'est que la présentation, elle s'est très bien passée.
Bah oui.
J'ai bien expliqué mon projet, ça avait beaucoup de sens. Et pour eux, c'était hyper logique et cohérent.
Mm.
Et puis aussi, je pense qu'il y a la personne aussi, tu vois, où ils ont apprécié aussi. Il y a eu un bon feeling.
Mm.
Et bref, donc en tout cas, après, ben, je me suis retrouvé là-bas et ça s'est trop bien passé encore là-bas. Genre un truc de malade. Et en plus, ce qui a été fort, c'est que c'était encore la Fashion Week, septembre.
Ouais.
Donc dingue aussi. Et puis, ils ont fait une très belle vidéo pour mettre en avant Maison Châteaurouge. Ils ont sélectionné quelques marques,
ouais,
sachant qu'il y avait énormément de marques. Et ils ont mis en avant Maison Châteaurouge. Et moi, ça m'a fait, ben, de la, entre guillemets, de la communication genre incroyable.
Mm.
Et ils nous ont même mis dans le catalogue du Bon Marché. Enfin, c'était quand même
une belle exposition.
Et là, après, ben, j'ai décidé de me professionnaliser en me disant, bon, ben maintenant, parce que là, il y a eu du coup plein d'autres acheteurs qui m'ont contacté.
Là, c'est du sérieux, quoi.
Et là, il fallait être sérieux. Donc, je suis rentré en showroom.
Ouais.
Où on présentait les collections.
Ouais, t'étais
et
chez qui?
On était chez M&K.
Ok.
Un beau showroom de Perséphone et Julie.
Ok.
Et vraiment cool parce que, en plus, ben, moi, je suis allé regarder et puis je voyais les marques qui étaient là-bas. Il y avait Journée, il y avait Com Édition,
ouais,
enfin
ouais,
c'était
ouais,
des belles marques, tu vois.
Ouais, je me souviens bien de cette époque.
Bah ouais, et moi je me suis dit, bah c'est trop cool, tu vois. Et même moi, ça me faisait plaisir, parce que pareil, ben après je veux pas être redondant sur ça, mais tu vois, pour moi, par exemple, je me disais, j'étais pas un styliste ou quoi que ce soit,
bah
pour
oui.
Moi. Et donc, être à côté de marques comme ça, moi c'était pour moi c'était un honneur, tu vois, j'étais content, parce que je me disais, bah c'est vers des marques comme ça en plus que j'ai envie d'aller, tu vois, qu'on me perçoive comme une marque un peu comme ces marques-là. Et à côté de ça, ben, quand Perséphone m'a contacté, ça m'a fait hyper plaisir parce que je me suis dit, elle connaît bien, elle a vu plein de marques passer. Mm. Et si elle voit quelque chose d'intéressant dans Maison Châteaurouge,
enfin,
c'est qu'il y a une reconnaissance de quelqu'un. Exactement. Donc, on décide d'entrer là-bas. Et là, on présente nos collections et ça se passe super bien. Genre, on ouvre 14 points de vente à l'étranger. Nos plus gros marchés, genre, c'est en Asie. Donc, c'est Japon, Corée du Sud. On ouvre aux États-Unis, dans des concept stores aux États-Unis. À Londres, genre Beaker, Beaker en Corée du Sud, chez Browns à Londres, vraiment des très beaux magasins.
Bah ouais.
Et juste après, moi, ce qui est compliqué pour moi, c'est le rythme.
Tu te rends compte un petit peu du rayonnement que ça donne
Ben, je vois qu'on, oui, concrètement, je vois que ça commence. En fait, j'arrive à le vivre en voyant comment ces concept stores ils sont. Enfin, quand je vois ces concept stores, les marques qu'ils ont, etc. Et je me dis, on est à côté de telle marque. Là, je réalise, en fait. Parce que je compare et je réalise et je me dis, OK, en fait, c'est hyper grand et c'est gros, tu vois, ce qu'on est en train de faire. Et là, en plus, à côté de ça, ce que je fais, ben, c'est que j'essaie aussi de me staffer. Donc, j'ai deux potes qui rejoignent l'aventure.
Mm.
Donc, parce qu'en fait, je me dis que tout seul, je vais pas y arriver.
Mm.
Et puis par rapport à leur taf et tout, ça tombait bien.
Ça colle.
Donc ça collait bien, donc ils rejoignent l'aventure.
Mm.
Et là, on essaye. Donc on essaye de développer encore plus sur la partie wholesale.
Ouais, parce que tu disais que tu avais peut-être un problème de rythme, de production.
Exactement, c'est ça. Et c'est qu'il fallait trouver les bons fournisseurs, d'ailleurs, pour le sourcing, pour la production. Et après, il fallait bien livrer.
T'as tout made in France, toi.
Et tout était made in France. Jusqu'à après, là, maintenant, on fait pas mal de choses en Afrique.
Ouais.
Mais au départ, c'était que du made in France. Et là, ça commence à être compliqué parce que moi, je ne suis pas capable de suivre le rythme pour dessiner des collections.
Mm.
En fait, je ne sais pas faire des collections. Donc, j'essaie comme je peux. Je sors des collections comme je peux. Mais en fait, je m'aperçois que ça m'épuise et qu'à côté de ça, ben, je n'arrive pas à développer plus la vente en direct, et puis, ouais, même en direct, et puis même raconter l'histoire de mon projet. Parce que du coup, il y a plein de projets que je fais pas, parce que je dois me concentrer sur faire une collection et la livrer parce qu'il y a les acheteurs qui doivent venir.
Ouais.
Et j'arrive plus à raconter l'histoire que je veux, tu vois, même parce que moi, par exemple, faire de la bouffe, ben, c'est, je prends autant de plaisir à faire ça parce que ça a beaucoup, c'est important pour moi. Que les vêtements, parce que si je veux avoir un impact avec les oiseaux migrateurs, il faut pas que je fasse que Maison Château Rouge.
Mmh.
Et du coup, ça commence à m'enfermer dans ça, jusqu'à un moment en fait où je réalise que je peux plus le faire.
Mmh.
Et là, on prend la décision de se dire il faut mettre en pause, parce qu'il faut qu'on arrive à se concentrer sur d'autres projets pour les oiseaux migrateurs. Et là, donc, on décide de ralentir sur cette partie-là. Et on se concentre sur la vente en direct et sur le développement d'autres projets, de collabs, pour avoir un impact plus gros.
Okay.
Parce que c'était, enfin, je sais pas, moi, je après même. Financièrement, en tout cas pour une marque, en tout cas moi ce que je voyais c'est qu'on avait la chance d'être en direct,
ouais.
Et là on se fermait dans un truc de vente avec,
avec des distributeurs,
mmh. Qui finalement en fait ça nous handicapait beaucoup,
c'est qu'on avait des
ouais, on perdait la mainmise, déjà comment ils racontaient notre histoire, comment on était perçu dans le magasin, parfois on était juste sur un portant mélangé avec d'autres marques,
ouais.
Donc finalement il n'y avait aucune valeur ajoutée pour nous.
Tu dissous un petit peu la marque.
Tu dissous la marque et puis, parce que, ouais, et puis en plus nous on est une petite marque, donc mmh. L'intérêt pour nous si on est dans un shop, c'est qu'on puisse profiter de sa communication, entre guillemets, pour nous mettre en avant. S'il n'y a pas ça, en fait, ça ne sert pas forcément.
Mm.
Et à côté de ça, en termes de chiffre d'affaires, ben, tu gagnes. Enfin, sauf, je ne sais pas pour les autres marques. En tout cas, nous, par rapport à notre modèle, le fait de produire en France, etc., en fait, on n'avait pas besoin. C'était mieux de vendre en direct que de faire ça.
C'était plus rentable, oui.
Ouais, parce qu'on avait.
On
perdait en marge et tout. Donc, c'était un peu compliqué. Moi, c'était pas le modèle. En tout cas, je me retrouvais plus dans ça. Tu vois, je me retrouvais plus vraiment. Et donc, on a décidé de se refocus sur la vente en direct. Et puis, surtout, c'est qu'en plus, on a eu, entre-temps, on avait eu... Enfin, j'ai sauté une étape, c'est qu'on a été contacté pour des collabs, surtout.
J'allais te dire, moi, j'ai le souvenir d'une grosse collab avec Monoprix.
Monoprix.
Je sais pas, ça arrivait
2018.
Quand, ça
ouais, ouais, ça arrive en 2018. Donc, 2 ans après... Non, je lance la marque en 2015, donc 3 ans après. Mais il me contacte très tôt, il me contacte en 2016. Ouais, je suis contacté en 2016, donc 1 an après le lancement de la marque. Par Monoprix.
Incroyable.
Et moi, j'y vais, je m'en rappelle, j'en parle autour de moi, les gens, ils captent rien. Parce que, pareil, hein, on n'a pas les mêmes références, tu vois.
Mm.
Donc, mes potes, ils me disent, mais Monoprix, c'est genre, c'est des épiceries, c'est de la bouffe, c'est tout ça. Qu'est-ce que en gros, ça n'avait pas de sens de faire une collab avec eux.
Ouais.
Mais moi, à côté, moi, je m'en rappelle, quand j'étais chez Merci, il y avait la collab Sarah Lavoine.
Bah oui.
Et ils avaient fait le pop-up à côté de chez Merci. Et puis, je sais qu'il y avait plein de gros designers qui avaient fait des choses
pour
Monoprix.
Fait, ouais.
Exactement.
Aussi bien dans les fringues que dans la déco.
Que dans
maison.
La déco. Et exactement. Et là, je me dis, bah, en fait, il faut qu'on y aille parce que, à côté de ça, moi, je sais que pour Maison Châteauroux, j'ai pas voulu faire que du textile et j'avais envie de détendre. Et je me suis dit, c'était la bonne opportunité pour montrer tout un truc un peu plus lifestyle autour de Maison Châteauroux. Et là, je vais au rendez-vous, je m'en souviens, celle qui s'occupe des partenariats. Elle me dit, mais qu'est-ce qui me dit que dans 2 ans, tu seras encore là? Parce qu'en vrai, on était au tout début, non?
Ouais, bah ouais.
Et moi, en tout cas, je me suis dit, mais il y a aucune raison que tu sois pas là. Parce que j'étais dans
t'étais
ma tête,
confiant.
J'étais confiant vraiment, tu vois.
Ouais.
Et puis je savais qu'on allait faire une super collaboration, tu vois.
Bah, donc, tu sais que moi je les vois encore, hein, les assiettes,
vrai,
les coussins quand je vais chez des potes dîner.
Trop stylé. Et ça, bah, elle a cartonné de fou.
Bah, de
franchement,
ouf.
Sans donner de chiffres et tout, mais ça a été un gros, gros succès.
Est-ce que tu parlais tout à l'heure un petit peu de modèle de financement et tout.
Mm-hmm.
À partir de quand vous avez réussi à être rentable
bah, nous, en vrai, nous, on a toujours été rentable dès le début parce qu'on n'avait pas
dépenses.
Le choix. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai toujours fait mes calculs pour que ce soit. Parce que
ça
comme
rentre.
C'est mon argent propre,
bien sûr.
Bah, il fallait à côté que ça puisse rentrer directement. Donc tu sors l'argent, tu vends tes trucs, tu as une petite marge, je réinvestis et puis j'ai monté comme ça petit à petit.
Ouais.
Et ensuite, quand tu as une OP comme avec Merci. Bah, ça te permet de générer un plus gros chiffre d'affaires sur une période.
Et tu réinvestis.
Et que tu réinvestis. Après, le bon marché, pareil, un plus gros chiffre d'affaires. Ensuite, il y a Monoprix qui arrive, ce qui permet de signer un contrat. Où t'as...
Ah bah ouais.
Et en plus, cette fois-ci, tu es payé pour dessiner une collection.
Mm.
Donc, tu n'as pas à sortir de la trésorerie.
Yes.
Donc, tu réinvestis ça. Et en fait, tout s'est fait vraiment de façon organique.
Ouais.
Et c'est là où toi, tout ce truc du chemin dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est que, et c'est cette mentalité que j'essaye de garder, entre guillemets, où je me dis, mais en fait, il faut se concentrer à chaque fois sur le quotidien, tu vois, et de faire bien les choses. Et après, petit à petit, en fait, en réinvestissant, eh ben, on a la possibilité de pouvoir grandir, mais de façon organique et pas aller trop, trop vite.
Yes.
Parce que souvent aussi, moi, je me posais la question à chaque fois, est-ce qu'il faut faire entrer des investisseurs?
C'est ce que j'allais dire.
Tout
est-ce que tu as été démarché? Est-ce que tu as eu
on
envie?
Nous, on a été démarché, mais je n'ai jamais réussi à lâcher.
Ouais.
Parce qu'à la fin...
T'as pas envie de dénaturer.
Ouais, je crois, ouais, c'est ça.
Ouais.
Et je me dis que je vais forcément, il y a un moment où je serai obligé de dénaturer. Parce que là, j'ai le luxe de pas mettre la pression. tu vois, si je veux pas faire une collection pendant un moment, ben j'en fais pas, tu vois. Parce que là, par exemple, là, en ce moment, ben, en plus, je crois qu'ils ont commencé à communiquer. On fait une collaboration avec Monoprix
qui
sort dans un mois.
Ouais. Ouais. T'as le droit d'en
on peut en parler. Ouais, on peut en parler. Ça sort dans un mois.
Trop hâte.
Et ben, pendant tout ce temps-là, nous, on n'a pas fait de collection sur Maison Châteaurouge. Ouais. Parce qu'on s'est concentré sur ça. Et c'est un projet qui est hyper fat parce qu'on a travaillé sur. En fait, c'est une collection 100% Made in Africa.
Génial.
Où on a travaillé avec des artisans et des designers sur le continent. On a au Congo, en Kabylie, en Tunisie.
Chez moi.
C'est chez toi. Okay. Au Maroc, au Sénégal, on a où d'autres encore ? À Madagascar. Donc vraiment, on est parti sur plein de trucs différents. On a du textile, on a de la déco, on a du linge maison en Guinée, qui est fait
trop
en
bien.
Guinée par Tensira. Son designer, on a Ipki donc pour les vases,
c'est cool.
Ouais, c'est hyper fat. Et à côté, on a tout un volet agroalimentaire aussi. Donc on a les boissons qui seront là-bas. On a développé des recettes aussi avec Maurice Ako.
T'as pas mis de vinaigre cette fois?
Non, c'est bon, là on est bien là. C'est... non, mais c'est trop bien parce qu'on a développé donc des recettes food to go, qui seront vendues en libre service dans les Monoprix. Où il y aura du tiaboudien, il y aura du attiéké, tout ça, tu vois. Ça me fait hyper plaisir. Et puis, on a travaillé avec Maury, qui est génial.
Ouais.
Et avec Mama Yoka, qui est un collectif de chefs des Darons, tu vois, dans le quartier, à la Goutte d'Or, qui
trop
ont fait le tiaboudien et qui sera vendu dans tous les Monoprix.
Ouais,
tu vois, t'as ce truc-là qui est hyper fort. Et je suis trop pressé que ça sorte. Ça va être trop fort, ouais, ça
même
va être cool,
même
ça.
Que tu m'en parles, j'ai trop hâte. Franchement, c'est un bel accomplissement, c'est trop cool. Et tu parlais tout à l'heure de la volonté d'exporter du produit transformé d'Afrique vers les autres continents.
100%.
Là, c'est bon,
là,
t'es coché la case.
Dedans. Exactement.
C'est trop cool.
Et
bravo.
Ça, là, concrètement, pour moi, en tout cas, c'est le projet le plus abouti.
C'est ouf.
Pour Maison Châteaurouge et les oiseaux migrateurs.
Pour toi, c'est ça ton plus gros milestone jusqu'à présent?
Exactement, ouais. 100%. Vraiment. Ça a été dur à faire parce que même sur les vidéos et les contenus, avec le Covid, on n'a pas pu aller sur place. Donc, c'est des réalisateurs locaux qui ont fait les vidéos, qui sont allés filmer les artisans. Après nous on a fait le montage ici, mais en fait c'est un projet qui est hyper transversal où on implique énormément de monde.
C'est trop cool.
Et c'est trop bien et je suis trop pressé que ça sorte.
Trop bien, ouais. On a hâte et allez acheter ça. Attends, il y a un truc dont il faut absolument
dans
qu'on parle là. Bah oui, on ne peut pas te faire venir sans parler de cette basket qu'on a vue partout.
C'est vrai.
Attends, ça a été sold out en combien de temps?
Franchement, attends, si je dis pas de bêtises. Je sais que lorsqu'il y a eu la sortie vraiment physique, ça a été en une demi-journée. Ouais, une matinée. En vrai, c'était 2 heures, mais on dit une matinée.
Ouais.
En 2 heures, ça a été sold out.
Incroyable. Tu peux nous parler un petit peu, parce que là, je drop une bombe, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu passer, ça m'étonnerait. Mais si tu peux nous parler un petit peu de cette collab, comment elle s'est mise en place.
Bien sûr. Bah, alors, ça, c'est assez incroyable aussi. C'est qu'en gros, on a Jordan qui nous contacte un jour parce que il allait avoir le K54 et il y a Victor Oladipo, donc un joueur NBA qui venait sur Paris et il devait faire un shooting avec lui, je crois qu'il y avait une nouvelle paire qui sortait de Jordan et il voulait être habillé avec une marque africaine, mais peut-être tu vois, parisienne, africaine, un truc cool, tu vois, mais en lien avec ses origines.
Ouais.
Il est nigérian. Et Jordan, en fait, comme il connaissait déjà Maison Châteaurouge, il y a un mec de chez Jordan qui dit ah, bah, ça peut être cool de connecter avec Maison Châteaurouge. Ils nous ont demandé si on avait des pièces pour lui. Donc on lui fait faire une chemise sur mesure.
Okay.
Et ils le font venir, rue Mira.
Arrête.
Pour faire un shooting dans le quartier. Et je crois que c'était Audios. Ouais, c'est Audios qui l'a pris en photo.
Oui, coucou.
Il le prend en photo dans la boutique, mais aussi à la Table Ouverte, qui est un restaurant dans le quartier qui est rue Léon.
Ouais.
Et donc il y a le shooting qui est fait comme ça. Et de là, il y a une relation qui commence à s'installer avec les gens de chez Jordan et de chez Nike. Et ensuite, après, ils nous proposent de faire un pop-up store dans le Jordan Bastille avec les pièces Maison Châteaurouge.
Ouais.
Et nous, on avait proposé de faire un shooting avec une paire, c'était une Jordan Future qui était sortie. Et on leur proposait de faire un shooting. Parce qu'on était parti au Kenya et on voulait shooter là-bas avec les baskets. Et puis après, on a fait un pop-up store où on vendait les produits, donc Maison Châteaurouge. Et il y avait la paire donc, qui venait pour accompagner les saps.
Ouais.
Et après, vraiment, il y a eu un bon feeling. Et on est resté en contact. Parfois, ils nous appelaient pour des événements. Parfois, nous, on les appelait aussi lorsque nous, on faisait des événements. Et c'était vraiment une relation d'amitié qui s'installait entre les deux marques. Et après, je pense que comment ça fonctionne, à mon avis, dans une grosse institution comme ça, c'est que Bah forcément, quand on a déjà entendu parler d'une marque, bah, le jour où il y a un projet, on pense
on
à
pense
nous.
On pense à toi d'abord.
Exactement. Mmh. Et là, il y a eu ce projet Fearless. Donc, c'était un projet où c'était... je crois que c'était des collectifs ou des designers. Enfin, il y avait plein de profils différents aux quatre coins du monde. Mmh. Donc, il y avait en Chine, au Japon, aux États-Unis et en Europe. Et pour faire une Jordan One. Et pour l'Europe, ils ont pensé à Maison Châteaurouge. Genre, j'ai un appel un jour, et franchement...
Là, y a, t'as dit que t'as pas très expressif, là, il y a quand même le sourire.
Non, parce que je, me rappelle la dinguerie que j'ai fait juste après. Parce que je reçois l'appel en janvier. Et quand il m'appelle, il m'annonce qu'on va faire. Il m'annonce, genre... et franchement, j'avoue, c'est... Non, ça, c'est une dinguerie, j'avoue. Là, j'ai exprimé. Il me dit, ouais, donc, en gros, tu as designé une Jordan 1.
Ouais.
Incroyable.
Bah, dans le, surtout dans le, dans l'imaginaire, ou en tout cas dans la culture un petit peu, bah, comme on disait tout à l'heure, un peu populaire, street, etc. La basket, c'est un culte.
De fou, de ouf. Et quand il me dit ça, moi, je suis comme un ouf. Et qu'est-ce que je fais? Je vais acheter une galette et du champomy.
Pour célébrer.
Bah oui.
Bah t'as raison.
Non, je reviens avec une galette et du champomy et j'annonce ça comme ça. Et là, genre, j'avoue, c'était, non, là, c'était beau. Ouais.
Quand même.
Là, c'était incroyable.
Quand même.
Là on a, j'ai réalisé. Là, j'ai réalisé. Après, quand j'ai pris conscience qu'on avait un délai court pour dessiner, donc je me suis mis dedans.
Là, tu te remets un peu dans le jus, dans l'opérationnel.
Mais pareil, sans, j'ai, à aucun moment, j'ai pensé que ça allait avoir le succès que ça a eu. Genre, jusqu'à même la paire, quand je l'ai reçue, ouais. J'ai douté. Même le jour du lancement, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais imagine, en vrai, personne n'aime. Et que ça marche pas.
Arrête, elle est trop belle, la paire.
Et en vrai, ça a été un truc de malade. Genre, ouais, non, c'était trop, c'était au-delà de ce que j'imaginais, ouais. Même parce qu'en fait, bah, t'as tous les joueurs NBA qui l'a porté. Et après, on m'a expliqué qu'en fait, ils sont pas obligés de porter. Enfin, moi, je me suis, parce que pareil, tu vois, je me dis, ouais, bah, à mon avis, ils leur ont donné,
un
ils ont
contrat,
dit porter, tu vois. Alors qu'en fait, non, ils reçoivent plein de trucs. Après, quand ils kiffent, bah, il est
c'est organique.
Exactement. DJ Khaled qui la porte et la dinguerie.
Non, mais attends.
Il la porte, dans quoi? Il y a une, pendant le Super Bowl, il y a une publicité. Et dans la publicité, il a mis en jaune et il porte la MCR.
Mais incroyable.
Incroyable, tu vas courir dans l'eau et tout, tout ça. Et en fait, il se passe plein de trucs comme ça, offset. Genre, anniversaire. Cardi B, elle lui offre...
Des frissons.
Je sais pas, elle lui offre combien. Elle lui offre, je crois, je sais plus combien, 400 000 dollars, je crois, en cash. Et lui, il les met par terre.
Et il marche dessus.
Il marche dessus avec la paire.
L'image. Non, mais...
C'est n'importe quoi. Et un autre truc aussi, je me rappelle, il y avait un mec sur Twitter, il avait dit un truc de ouf. En gros, parce que je crois, forcément, ils sont d'Atlanta. Donc, ils vont dans des strip clubs.
Strip clubs, ouais.
Et il dit, ouais, est-ce que t'aurais imaginé qu'un jour Offset il se ferait twerker dessus avec ta paire?
Bah, qui peut imaginer ça?
Et même dans, ça n'existe dans aucune vie, tu peux te dire ça va mais arriver jamais. Un truc comme ça, tu vois.
Bah non.
Et plein de choses comme ça, en fait. Plein de trucs comme ça. Après, t'as les Mbappé, Dembélé, t'as aussi tous les rappeurs aussi qui, en fait, et il se passe tout un truc que même moi je maîtrise pas en réalité, tu vois. Et ce qui est fort, c'est qu'avec, et avec Jordan, et c'est là où je trouvais que c'était hyper puissant, c'est qu'on leur a demandé, et on a vu avec eux, si on pouvait faire un lancement d'abord dans le 18e, avant que ça sorte partout. Et en fait, on fait un lancement Rumira avant genre, que ça sorte, la veille. Et là, t'as la queue devant la boutique. En plus, tu vois, c'est une petite boutique, donc t'as la queue devant Rumira, les gens qui
les
viennent...
Les habitants, ils n'ont pas dû comprendre ce qui se passait.
Il y en a s'arrêter. Et le truc de fou qui est drôle, et je pense que je peux en parler... C'est que t'as les gens qui font la revente, tu vois.
Bah, bien sûr.
Et nous, on avait dit que c'était une paire par personne.
L'économie parallèle.
Et là, j'ai eu des fous rires parce que, quoi, à un moment, les gens, ils payaient des mecs, des gens du quartier.
Ouais.
En leur disant, ouais, je te. Déjà, nous, la première chose que j'ai fait, c'est que t'as les mecs du Square Léon, tout ça.
Ouais.
Je leur ai tous dit de venir. Et comme ça, tout le monde a pris sa paire. Tu vois, vraiment, je voulais d'abord que les gens du quartier l'aient.
C'est génial.
Avant qu'il y ait tous les autres qui viennent pour. Tu vois, ceux qui viennent de l'extérieur et tout. Donc, tout le monde a eu sa paire dans le quartier. Après, donc, t'as les mecs qui faisaient la queue et t'as les revendeurs qui cherchaient des passants. Non, ils leur disaient, je te donne 50 euros et ils achetaient la paire. En plus, et ils prenaient 50 euros après. Et là, à un moment, il y a un mec qui prend un craquette, tu vois, parce qu'il y en a, t'as Rumira un
ben,
peu.
Bien sûr.
Surtout vers croisement Barbès-Rumira.
Alors lui, il a pris ses
50
euros.
Et c'est un mec qu'on voit tout le temps. Non, attends. Moi, je le vois tout le temps. En plus, il a une canne avec des plumes, chapeau, tout ça.
Un personnage.
Il rentre dans la boutique. Bonjour. Genre, je viens pour acheter la paire de Jordan. Genre, et le mec, il raconte un discours et il sort une carte Visa Premier. Le mec, je me dis, c'est quoi ce délire? Et là, je lui dis, non, il n'y a rien ici, chef et tout. Tranquille, tu vois. Et après, il sort. Il a même pas fermé la porte. Il dit, ah ben, ils m'ont dit non. Et là, tu vois, mais c'est trop marrant, tu vois. Et tous ces trucs-là, non, mais après, c'est des bons souvenirs, tu vois. Et là, j'étais content parce que du coup, entre-temps, dans l'équipe, on avait ajouté des alternants, des stagiaires et que des jeunes, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'est un truc pareil, qu'on oublie beaucoup, c'est qu'on a une moyenne d'âge qui est de 25 ans dans l'équipe, tu vois.
C'est jeune.
Et on est tout jeune. Et à chaque fois, je leur dis ça, tu vois, je leur dis, genre, il faut réaliser ce qu'on est en train de, ce qu'on est en train de faire.
Mais de
ouf. Parce qu'on s'en rend pas compte. On est très jeune et ce qu'on est en train de faire, en vrai, il y a peu d'entreprises en France qui sont aussi jeunes et qui font des choses comme ça.
Vraiment.
Et
vraiment.
Donc, il faut bien être conscient de ça parce que c'est hyper fort. Et moi, je suis content parce que, bah, pareil, tu vois, on prend des jeunes du quartier. En alternance ou en stage, où on essaie d'embaucher vraiment des profils, tu vois, qui pour beaucoup parfois ils ont du mal à trouver du taf,
ouais.
Alors qu'ils sont hyper qualifiés, hyper talentueux.
C'est trop
donc,
bien.
Donc c'est cool et moi c'est ma fierté.
C'est bien de garder cette volonté là. Il y a pas mal de gens que le succès rend un petit peu amnésique et qui oublient qu'ils ont galéré aussi et que personne leur a laissé leur chance. Donc c'est hyper bien de.
C'est pour ça je pense que c'est important que je sois encore à Villepinte.
Tu restes.
Ouais, parce que je pense qu'il y a un truc.
Comme
je sais pas. En tout cas, tu vois, je sais pas comment. Mais je pense qu'il y a un truc qui fait que chaque soir, en tout cas, quand je rentre, même le fait d'être dans le RER, RERB, tu vois. Tu vois les. Parce que même. Bah, je sais pas si on en parlera, mais tu vois, tu peux être à l'Élysée à un moment et après te retrouver dans le RER en train de rentrer. Et quand je rentre, tu vois, parce que par exemple, il y avait le dîner des créateurs, je crois que c'était. Je sais pas quelle année. Il y a deux ans, ils avaient fait avec Macron.
Ouais.
Pareil, tu vois, je vais là-bas. Genre, je me retrouve grâce à Pierre-François Lelouette de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Qui me. Je sais pas, je me retrouve dans une liste et je reçois un mail d'invitation à l'Elysée. Donc,
c'est
je vais au. J'arrive, et ça, archi drôle aussi, bah, j'arrive dans le perron et tout, dinguerie, genre un truc de ouf. Je vois, il y a Jean-Paul Gaultier, Agnès B.
T'imagines ?
Il y a. Attends, il y avait des. Genre, il y avait Vincent Elbaz qui était là. Il y avait Anna Wintour.
Incroyable.
Genre, il y avait toute la terre. Toute la. Tout,
le
vraiment
gratin.
Tout. Et moi, je suis là, je me dis. Je sais même pas, c'est des gens que t'as vu que à la télé, tu vois, et ils sont là devant toi comme ça. Et je regarde, et là j'entends.
Tu sors de ton corps un petit peu, tu sais, dans ces moments-là.
Ouf,
tu te.
Grave, et là j'entends, Youssouf, et je me retourne, et c'est un poteau qui travaille, tu vois, qui est dans les cuisines de l'Élysée, je dirais pas son nom parce que je pense qu'il veut pas trop en parler, mais qui travaille, tu vois, il est avec le chef à l'Élysée. Et là, et c'est le mec que je connais, tu vois.
Le check.
De ouf. Et je vais le voir. Et là, je me dis, c'est bon, j'ai un gars, tu vois.
Ça te
et je reste avec lui. Et c'était archi lourd, tu vois. Et je vois tout ça avec du recul, tu vois. C'était hyper puissant, tu vois, d'être là-bas. C'était fort.
Bien sûr.
Mais à côté, après, quand je rentre, ben, j'ai la réalité, tu vois. Qui fait que je me dis, OK, tu peux être là, mais d'où tu viens, c'est ça, tu vois.
Tu restes
et
hyper
faut pas
humble.
Que j'oublie pourquoi. Ouais, exactement. Faut pas
c'est
oublier la mission, quoi. Et donc ouais, donc c'est des petites anecdotes comme ça, tu vois, et où je me dis, ben c'est bien, ça me permet quand même de garder, parce que n'importe quel humain, tu vois, je sais pas comment on réagit face au succès ou face à l'argent ou tout, parce qu'en fait, ce qui se passe, et moi par exemple sur Jordan, ce qui a été compliqué un peu pour moi, c'est j'ai pas réalisé en fait que lancer une paire de chaussures comme ça, ça allait avoir des répercussions sur les gens, en fait, même les gens que je vais croiser dehors.
Bien
parce
sûr.
Qu'il y a des gens qui vont venir à la boutique, la perception qu'ils vont avoir de moi. Moi, ça, j'ai pas du tout calculé ça. Et en fait, ben, tu t'aperçois que les gens, en fait, ben. Enfin, je sais pas comment.
Ça te change ton rapport aux gens.
Ouais,
parce
c'est
que
ça.
T'as vu des. Il y a souvent ça, hein, on voit souvent des gens qui ont des réussites un peu fulgurantes ou qui gagnent beaucoup d'argent alors qu'ils n'en avaient pas forcément au départ. Ou qui ont de la popularité alors qu'ils n'en avaient pas, les gens autour de toi, que tu le veuilles ou pas, hein, parfois,
bien sûr,
que
oui.
Toi t'es changé ou pas, c'est même pas tant la question, changent en fait.
Bah c'est assez bizarre. Et moi, c'était surtout les gens que je connaissais pas et qui me reconnaissaient. Moi, ça m'a perturbé, mais tu peux pas imaginer.
Bah tu m'étonnes.
Parce qu'en fait, j'arrivais pas à comprendre. Pour moi, c'était juste sur Instagram, Internet, et puis c'est tout, tu vois. Et en fait, ben, carrément, un jour au Portugal, il y a une famille genre, qui s'arrête et t'as la mère qui. Je crois que c'est le fils qui me reconnaît, tu vois.
Ouais.
Et qui dit à sa mère. Et puis en fait, ben, je vois sur le téléphone parce qu'ils étaient assis, tu vois, et moi je commandais un truc. Et en fait, il y a ma photo sur leur téléphone, tu vois. Parce qu'ils étaient
mais
en train de chercher sur Google si c'était bien,
c'est bien
moi
toi,
et tout,
genre.
Tu vois.
Oh
après,
là.
Ils viennent me voir. À Bordeaux, pareil, je croise des mecs et tout. Et sinon, ben, quand je vois sur Insta et tout, les gens qui m'envoient des DM, je reçois des messages de ouf. Et le problème, c'est que à côté de ça, ben moi, j'avoue, je taffe énormément. Donc, je lis, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Et à côté de ça, je sais qu'il y en a qui le prennent mal parce que je réponds pas. Et j'arrive pas à gérer ça parce qu'en fait, j'étais pas préparé à ça du tout. Mais vraiment pas, tu vois. Et je pensais pas, ou même, tu vois, il y a plein de gens qui viennent à la boutique, qui me demandent de signer leur père, des choses comme ça. Moi, je m'attendais pas du tout. Tu vois, je pensais pas que ça allait être comme ça. Vraiment pas. Et du coup, ça me met dans.
Enfin, comment tu réagis, t'es gêné?
Moi je suis grave gêné et je me dis, je sais pas s'il le voit, tu vois, mais je suis grave gêné parce que je me dis, mais En fait, je n'ai même pas signé, j'ai pas de signature, moi je suis pas, tu vois.
Eh, ça se tape ça.
Oui, bah oui, mais moi j'ai pas préparé, tu vois.
Ouais.
Donc il y a tout ça et en même temps c'est hyper beau parce que ça me fait réaliser que c'est fort, tu vois. Après je me dis, enfin c'est ça me touche de ouf.
Bah, bien
tu vois,
sûr.
Parfois je me pose et je me dis ah ouais c'est incroyable, tu vois, vraiment, c'est incroyable. Et après je me dis bon il faut taffer encore, tu vois, il faut taffer, mais c'est sûr, ouais, c'est cool. Et puis j'ai un pote, il m'a dit. Faut que tu gardes en tête, c'est comme si tu avais sorti un album et t'as fait disque d'or direct, tu vois,
bah
pour
ouais.
que je comprenne. Il a pour essayer d'imager pour que je comprenne parce que j'arrivais pas à comprendre.
À réaliser ouais. le succès.
Et après, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que quand tu sors un album, en fait, t'es écouté par beaucoup, donc ça, ben, les gens ils te connaissent quoi.
Ouais.
Et il m'a dit, ben faut que tu gardes en tête que c'est pareil, tu vois. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre et de réaliser.
Bah ouais. Moi, j'ai toujours cette image-là de dire, par rapport aux réseaux sociaux et tout, on ne se rend pas forcément compte de la portée, l'ampleur qu'ont les choses, mais dis-toi, quelle salle tu remplis, tu vois ? Est-ce que tu remplis
Stade
de France ? Est-ce que tu
vrai.
Remplis, tu vois ?
Oui, t'as raison, en plus.
Bah, la population d'une ville,
c'est vrai, j'avais pas
rien,
fait attention à ça, c'est vrai, en plus, t'as raison.
Mais c'est énorme. Mais c'est cool, je trouve que c'est hyper beau de rester humble, et je pense que c'est ce qui, quelque part, contribue aussi au succès et au fait que t'avances. Hein.
Ouais, j'espère. Franchement, en tout cas, j'espère ne pas... Enfin, dans mes prières, en tout cas, je répète toujours ça, de ne pas... J'espère que, oui, ça va pas monter à la tête,
ouais.
et que je vais réussir à rester focus, tu vois, et garder les pieds sur terre tout le temps.
Bah écoute,
tout
ça a l'air, là.
Bah j'espère, et puis j'ai un bon entourage. Heureusement, tu vois, ouais, ça c'est important. J'ai un bon entourage et... Pareil, moi, mes parents, tu vois, quand on disait le truc de réaliser, c'est que mes parents, tu vois, que je vienne avec
dire,
une...
Attends, comment elle a réagi ta mère à Offset dans le strip club?
Non.
Elle a pas
même
vu.
Là, c'est la première fois que j'en parle, tu vois. J'ai honte et tout, je suis pas... Mais elle a pas vu ça, non. Mais tu vois, mes parents, que je vienne avec une Jordan ou que eux, ils s'en foutent, tu vois, à la fin. C'est, je suis leur fils, tu vois,
c'est
je suis
bien.
Leur enfant. Donc ça me permet de rester... toujours à ma place, mais sur cette paire, en tout cas, c'est la première fois qu'ils ont Monoprix. Ils étaient venus parce qu'on avait fait un pop-up
quand même.
Et ils avaient réalisé, mon père, ça m'avait trop touché parce qu'il a acheté une tasse
oh.
alors que je pouvais lui donner, tu vois.
Ouais, mais attends, c'est
il
trop bien.
Il m'a même pas dit. Et,
non, mais c'est trop
et sa
beau.
Tasse, elle est donc il a une armoire avec tous ses bouquins, genre livre coranique, tout ça, tu vois.
Il les a, il
et
a
il a mis la tasse à côté.
Trop bien.
Il a jamais touché, tu vois. Elle est posée là comme ça.
Comme un diplôme, quoi.
Exactement, ouais. Et c'est à chaque ouf. Fois, je la vois et je me dis, ok. Tu vois, ça, c'est des petits trucs comme ça, avec ça, où il montre en fait que c'est important pour lui. Et quand la paire, elle est sortie, ma famille, ils m'ont fait une surprise. Genre, j'avoue, moi, j'allais pas célébrer ça, tu vois.
Arrête.
Mais franchement, je réalise rien du tout. Parce que pour moi, c'était ses sorties.
Ouais.
C'est cool, ça a marché. Et moi, j'allais rentrer comme si de rien n'était, tu vois. Et là, donc on me dit de venir à la maison. Il y avait de maison familiale, tu vois. Il y avait mes frères, mes sœurs. Et on dit, ma sœur, elle me dit, on va faire une raclette.
Okay.
Tu vois. Genre, elle me dit, il y a une raclette et tout. Il y a tout le monde qui vient à la maison. Genre, viens, quitte pas trop tard.
Okay.
Donc, vas-y, je finis le taf et tout, 19h. Et je prends la route pour rentrer. Et je crois que je mets un peu plus de temps parce qu'elle a dit c'est 19h pile, et moi je pars à 19h, tu vois. Donc j'arrive, je mets du temps et elle m'envoie un message, t'en es où et tout, et moi je comprends pas. Et j'arrive et la lumière, genre tout est éteint. Et c'est un peu bizarre, mais pour moi, impossible qu'il y ait un truc qui ait été organisé ou quoi que ce soit. Et là, quand j'ouvre la porte, la lumière elle est éteinte et je comprends rien, donc j'enlève mes chaussures et tout. Et là, ils allument la lumière et j'entends surprise. Et là, tu vois, il y a des tantes, mes cousins, mes sœurs, mes neveux, mes nièces. Et un gâteau, genre avec ma photo avec la paire de Jordan et tout.
Je suis
j'avoue, j'allais pleurer, mais
bah
j'ai pas pleuré.
Attends.
Non, j'ai pas. Mais c'est là, je me suis dit, j'avoue, franchement, ça m'a fait quelque chose.
Tu m'étonnes.
Ça m'a fait quelque chose. Et de voir la fierté, et puis ça, et j'en parle toujours, c'est que cette paire-là, je pense, c'est vraiment pas comme si c'était que ma paire à moi, tu vois. Ou à Maison Château Rouge, on dirait que c'est vraiment diable dans ma famille. Tout le monde, c'est comme si c'était leur propre père. Et encore plus loin que ça, c'est que tous les jeunes de banlieue, ils se sentent comme si la paire, elle leur appartenait,
c'est un
objet
culturel.
Exactement.
C'est
et
fort.
Ils en parlent, tu vois. Et quand on a fait le lancement de la paire, je marchais avec une personne de chez Jordan. Et les gens, ils s'arrêtaient et me remerciaient. Ils me disaient, ouais, merci pour ce que tu as fait pour la culture.
Culture.
Ouais, exactement.
Pour la culture.
Et ça, tu vois, c'est des trucs comme ça où je me dis. Ça, ça te prend, tu vois, parce que tu dis, ok, c'est. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, on
ça
en parlera, tu vois,
mode.
Ça dépasse la mode, ouais, exactement.
C'est ça qui est hyper beau parce qu'on reste quand même dans un univers qui est, somme toute. J'aime pas trop dire ça parce que le vêtement, quand même, c'est un marqueur culturel,
Bien
c'est
sûr.
Un marqueur identitaire, donc c'est important. Mais on reste dans une industrie qui peut vite devenir futile.
100%.
Et quand t'arrives à donner du sens à ton métier, à une marque, c'est le plus bel
accomplissement. Exactement, ouais, je me dis, ok, tu sentais que les gens avaient besoin de ça, parce que, encore une fois, tu vois, pour moi, c'est que même, c'est cool Virgil Abloh ce qu'il fait, sans critiquer qui que ce soit,
non.
Mais à côté de ça, ils sont afro-américains, c'est des Américains.
C'est pas pareil. Hein.
C'est pas pareil,
pas
tu
même
vois.
Culture.
Et ici, on a personne, tu vois, des gens qui nous ressemblent et qui font des choses, tu vois. Et là, tu sentais que les gens étaient en mode enfin, c'est bon,
c'est
on a
clair.
Notre truc, tu vois, c'est à nous. Et là, tu le vois, et même je le vois jusqu'à présent, et les gens, ils continuent, tu vois, à me le rappeler, à me le dire. Et donc, c'est ça qui est fort, et c'est ça qu'on veut laisser. Et à travers même Maison Château Rouge, finalement, c'est né de ça, tu vois. Et quand on fait la photo où t'as. C'est juste en face, c'est la propriétaire du salon de coiffure en face, où on a fait justement le film de la campagne, où on a tourné là-bas. Et à un moment, en fait, y a la tenue. Donc, moi, j'ai récupéré des tenues de ma mère. Qu'elle avait dans les années 90 en basin bleu, etc., parce qu'elle les porte plus, et moi je trouvais ça très beau. Mais si forcément un jour ça me servira,
ouais.
Et je me souviens que j'en ai un qui est bleu et qui est la même couleur que la paire. Et je le ramène à la daronne en face et je lui demande est-ce qu'elle veut le porter avec la paire. Et on fait une photo, et là on fait cette photo là, et tu vois, qui est pareil, qui est relayée partout sur Twitter et tout. Et pareil, et du coup, on a réussi à mettre toutes ces générations là, tu vois, dans un même truc, et je sais pas, et ça fait quelque chose de beau, et comme ça faisait du bien à tout le monde, tu vois. Et moi, c'est ça, tu vois, c'est ça qui est le plus important.
C'est une reconnaissance dont on manque énormément.
Carrément.
Trop
donc
cool.
Voilà, ouais, c'est cool.
Trop trop cool. c'est assez fort aussi. C'est une question que je me posais, moi, comment tu fais pour que une marque qui est quand même relativement jeune, même s'il y a eu un gros succès et tout, qu'elle se fasse pas absorber complètement par un mastodonte comme peut être Nike, tu vois, et la paire Jordan qui est iconique. Comment tu penses que la balance s'est opérée?
Bah en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut garder en tête toujours, c'est que lorsqu'une grande marque vient nous voir, elle vient nous chercher parce qu'elle aime notre univers.
Ouais.
Et à partir du moment où tu gardes ça en tête...
Elle le valorise et du coup, elle t'absorbe pas.
Exactement. Mmh. Et puis en fait aussi, il faut rester... Il y a des choses sur lesquelles il faut rester intransigeant. Parce que tu sais que ce qui fait la force de ta marque, c'est ces choses-là.
Ouais.
Et sur ça, en fait, tu dis, sur ça, moi, je peux rien changer. Il faut que ce soit comme ça. Et elle accepte parce qu'en fait, elle vient de te chercher pour ton identité, ta singularité, pour ton image. Donc, elle l'accepte au final.
Trop
et
cool.
Au contraire, elles sont demandeuses, en fait, de ça. Donc, nous, c'est comme ça qu'on gère, tu vois, à chaque fois.
Ok. Si on se place côté Afrique, c'est quoi la réception qu'il y a de la marque sur le continent?
Sur le continent, sur Maison Château Rouge, en vrai, moi, j'avoue que je sais qu'il y a beaucoup de gens en parlent et je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent Maison Château Rouge comme exemple. Ils veulent devenir comme Maison Château Rouge, tu vois.
Ouf.
Et ça, je trouve ça me fait hyper plaisir. Une des volontés que j'avais, c'était pas forcément de vendre sur le continent africain.
Ouais.
Parce que ce que je voulais, c'était plutôt que des marques africaines, elles, puissent s'exprimer et vendre leurs propres produits. J'avais pas envie d'arriver là-bas et que... tant que je produisais pas en Afrique, en tout cas, j'avais pas envie de vendre là-bas. Parce que je préfère pas toujours dans cette démarche de produits transformés.
Bien sûr.
Ça, tu vois.
Ouais.
Mais à côté, c'était hyper bien perçu. Et surtout, après, nous, on a fait des collabs. Tu vois, on avait travaillé avec Sandstorm au Kenya, où on avait fait des sacs. Là, on a développé de plus en plus de projets, justement, avec Monoprix. Et en fait, tu t'aperçois qu'on essaie, en tout cas, de mettre de plus en plus de partenariats. Et là, en plus, ce qui va arriver, c'est en septembre, on fait une exposition au Musée des Arts Déco.
Super.
Sur le design et la mode africaine. Donc là, on fait venir des artistes, ce soit l'artisanat, des designers, c'est de montrer tout ça. Au Musée des Arts Déco, parce qu'on a envie de faire un truc hyper collaboratif, tu vois, comme les oiseaux migrateurs, tu vois, c'est un truc où on est ensemble
et on
avance, tu vois, tous ensemble, et c'est ce qui nous porte.
Ouais. Et je pense que c'est un des enjeux importants aussi pour pas qu'il y ait, on parle beaucoup d'appropriation culturelle, etc. Je pense que pour qu'il y ait plus ce problème-là, cet enjeu-là, il y a un gros travail d'éducation à faire,
100%.
Et du coup, ce projet-là, je pense, d'exposition, il y a un enjeu culturel et éducatif.
Exactement,
qui est hyper fort.
C'est clair. Et c'est exactement ce qu'on a envie de faire. Et c'est de se dire aussi, les métiers d'art africains, en fait, c'est au même niveau que n'importe... Tu vois, quand t'as Chanel qui fait son défilé métier d'art, mais en fait, ces métiers d'art, ils sont valorisés d'une certaine façon. Et on a la même chose en Afrique.
C'est clair.
Et on va le montrer pareil, parce qu'en fait, il faut que les gens réalisent qu'il y a des artisans, qu'il y a des savoir-faire. Et en fait, tant qu'on ne les montre pas, les gens vont continuer, en fait, à se les approprier et les faire eux-mêmes, en tout cas, voler des techniques ou des... des savoir-faire sans les nommer, alors que si on les nomme et qu'on les montre et qu'on les fait rayonner, à la fin personne peut copier sans citer, tu vois.
Exactement.
Donc carrément
trop trop cool,
très cool.
Écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour.
Grave.
Y a peut-être un truc dont tu veux parler ou...
Non, franchement...
C'est bon ?
Ouais, ça okay. va.
Écoute, on finit toujours l'interview avec des petites questions gimmicks. Je te les pose, t'essayes de répondre du tac au tac. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Le meilleur conseil ?
Ouais, ou alors une phrase que tu te répètes souvent.
Non, il y a une phrase que je me répète toujours, c'est ma phrase sur mon Insta, c'est « Demain, le soleil se lèvera et on essaiera encore ». Parce que je trouve qu'elle veut tout dire, cette phrase, tu vois. C'est « Peu importe, tu vois. » Ouais, exactement. « Peu importe les obstacles, les difficultés de la vie aussi, qu'on rencontre tout le temps, à chaque fois, le lendemain, quand on va se réveiller, on aura la même détermination. Et on va réessayer, même si on nous met des barrières ou quoi que ce soit, on essaiera, on ne lâchera pas, tu vois. »
Super. T'as un talent caché ?
Un talent caché, les gâteaux.
Les beignets, la pomme.
Non, pas ceux-là. Mais je fais des très bons gâteaux.
Arrête.
Vraiment.
On veut goûter ça, on veut goûter ça.
Ok.
Un plaisir coupable.
Un plaisir coupable, le sucre. Hein.
Le sucre, ouais. Mais tout le monde. Hein.
Je mange trop de gâteaux, moi, laisse tomber.
Ah bah si tu les fais, faut les manger.
Laisse tomber, c'est sûr.
Ok, l'émoji que tu utilises le plus. L'émoji que tu utilises le plus.
C'est les mains pour invoquer ou pour prier, okay. là. Ouais, c'est les deux, là.
Ok. Le dernier compte Insta que t'as suivi ou un compte que t'adores, que tu check tout le temps.
Je vais regarder tout de suite. Moi, je suis trop de comptes Instagram, j'aime trop ça. Museo de Arte Popular. C'est un musée d'art populaire à Buenos Aires, en Argentine.
Ok, t'as découvert comment ?
Je sais pas. Non, en fait...
Le feed.
Non, ouais, je crois dans le feed. Non, et surtout, en fait, j'aime bien, dès que je trouve un truc, après, je clique dessus et après, je regarde les comptes un peu similaires.
Ouais,
et
ouais,
après,
ouais,
je vais chercher comme ça et puis après, je découvre des nouveaux trucs.
Tu fouilles un peu.
Ouais, exactement. Ouais.
Ok, ok.
Puis en plus, en ce moment, comme je suis dans le truc de l'expo au Musée des Arts Déco,
moi,
j'aime bien regarder un peu ce qui se fait... Et surtout, j'aime bien regarder ce qui se fait dans les musées, mais plutôt Amérique du Sud, Afrique, Asie.
C'est ça, ça t'inspire.
Ouais, j'aime bien. Tu vois, et puis je me dis, par rapport à ce qu'on fait, même si nous, on est à Paris, le fait d'être de banlieue ou être à la Goutte d'Or, etc., je pense qu'on doit, créer nos propres façons d'exprimer nos choses, des choses. Et je pense que forcément, pour des pays qui ont connu la colonisation, etc., forcément, dans l'art ou dans la façon de présenter des choses dans les musées, ça va plus se rapprocher de nous comme on a envie de parler, je pense, avec les revendications. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien regarder un peu ce qui se fait dans ces pays. Ouais.
Trop intéressant. Ok. Et enfin, je finis la tendance mode que tu n'as jamais compris.
La tendance mode que j'ai jamais compris. Franchement, là, il y en a une que je ne comprends pas trop, c'est les Crocs.
T'as vu ?
Franchement, j'arrive pas à voir en fait à quel moment ça arrivait. Ça m'a échappé.
Moi, j'étais hyper hyper contre et je vois de plus en plus de potes qui en portent
et c'est cool.
Qui rockent ça de ouf.
Ouais, et en fait, et c'est ça que moi je trouve très beau dans la mode. C'est ça, c'est que en fait, un truc que tu peux détester, genre il y a 2 ans, tu peux l'aimer 2 ans après. Parce qu'il y a des gens qui vont te montrer en fait comment tu peux bien le porter, que ça va aller. Et moi, c'est ça que je trouve fort. Donc, il faut jamais se dire. Même si je comprends pas une tendance ou que j'aime pas, faut pas la rejeter ou quoi que ce soit. Ouais. Parce que peut-être que c'est juste ce moment-là où on n'est pas prêt. Mais il y a un moment où en fait les gens vont... Et c'est ça qui est beau dans la mode aussi. C'est qu'on arrive à convaincre des gens à porter des trucs qui, il y a quelques années...
Pas.
Exactement. Et c'est à ramener le beau, tu vois. Et ça, c'est ça qui est cool. Et le beau, c'est universel finalement. Et tout le monde, que tu sois riche, pauvre, on a tous une sensibilité au beau, tu vois. Ouais. Tout le monde va vers ça, tout le monde cherche ça. Et c'est ça qui est cool, tu vois. Et donc, et la mode, elle est là pour ça. C'est comment on re-universelle quelque chose. Et c'est cool.
Génial. Merci beaucoup, beaucoup.
Avec
pour ton
plaisir.
Témoignage.
Merci à
C'était
toi.
C'était super de te recevoir.
Trop cool, merci.
Bon
merci.
Courage pour la suite et
merci
on va
bien.
Suivre de près
Allez,
ce qui arrive.
Grave.
Merci.
Ciao, ciao.